Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
Bonsoir à toutes, bienvenue dans Punchline ce soir sur Europe 1 et sur CNews. Au sommaire, ce soir, la cérémonie religieuse en hommage à Bernard Tapie s'est déroulée à la mi-journée en l'église Saint-Germain-des-Prés à Paris. Une messe où l'on a entendu les témoignages de ses proches, de ses petits-enfants, évoquer la mémoire d'un grand-père adoré. Le cercueil de Bernard Tapie se rend maintenant à Marseille. Un hommage plus populaire lui sera rendu au Vélodrome avant une autre cérémonie ce vendredi en l'église Sainte-Marie-Majeure. Le pape François demande pardon aux victimes de la pédocriminalité de la part de certains prêtres et religieux. Un rapport commandé par l'Église a recensé plus de 300 000 victimes en 70 ans en France. Le souverain pontife affirme que l'Église n'a pas su mettre ses enfants au cœur de ses préoccupations. Une marche blanche dans le Pas-de-Calais en mémoire d'une adolescente de 12 ans qui a été retrouvée morte à son domicile. Un suicide qui, d'après ses proches, serait lié à des problèmes de harcèlement scolaire. Une enquête judiciaire a été ouverte par le parquet d'Arras. Du côté du Covid, les autorités de la santé recommandent une troisième dose pour les soignants, mais aussi pour ceux qui travaillent dans les transports sanitaires et le personnel du secteur médico-social. Emmanuel Macron en Slovénie, à un sommet de l'Union européenne. Le président français appelle les Européens à être clairs avec eux-mêmes dans un contexte géopolitique de plus en plus bouleversé. Une référence bien sûr à l'affaire des sous-marins australiens et l'attitude des États-Unis envers leurs alliés historiques. On entendra le chef de l'État tancer ses homologues européens. Nous avons besoin d'être clairs avec nous-mêmes pour savoir ce que l'on veut pour nous, pour nos frontières, notre sécurité, notre indépendance énergétique, industrielle, technologique et militaire, leur a-t-il dit. Et puis c'est le sondage choc du jour. Pour la première fois, le polémiste Éric Zemmour serait qualifié au second tour de la présidentielle. Il devancerait désormais Marine Le Pen, Xavier Bertrand et de loin Jean-Luc Mélenchon. Le duel, annoncé depuis des mois, voire des années, Macron-Le Pen pourrait donc ne pas avoir lieu, si l'on en croit les intentions de vote exprimées dans ce sondage Harris Interactive. Éric Zemmour est notre invité ce soir. Bonsoir Éric Zemmour.
Bonsoir.
Merci d'être sur ce plateau. Comment réagissez-vous face à cette progression fulgurante dans les sondages? Vous êtes devant tous les autres candidats. Est-ce que l'heure de la candidature approche?
Je ne sais pas si l'heure de la candidature approche, mais vous me demandez comment je le vis. Donc je le vis très bien. Je suis ravi et très heureux que mes idées, mes convictions que je défends depuis longtemps aient un tel écho dans le pays. Enfin bon, il faut savoir raison garder. Hein. J'ai dépassé Marine Le Pen, Xavier Bertrand. Je n'ai pas dépassé le général de Gaulle.
Ce sont des adversaires qui ne sont pas à votre mesure ?
Non, ce n'est pas ça. Je veux dire, il faut mesurer ça. Vous voyez, il faut être mesuré. Vous savez, j'ai entendu sur votre antenne Nicolas Sarkozy dire que j'étais l'expression d'un vide politique. Il n'a pas tort. C'est ça que je voulais dire. Il n'a pas tort, mais dans ce cas-là... nous sommes tous l'expression d'un vide politique depuis le général de Gaulle. Même Georges Pompidou est l'expression d'un vide politique. Et Nicolas Sarkozy est lui-même l'expression d'un vide politique par rapport à Mitterrand, par rapport à Giscard. Vous voyez, ça décline. C'est ça que je voulais dire en vous répondant cela.
Est-ce que vous êtes une bulle sondagière, comme certains le disent? Est-ce qu'encore une fois, la bulle Zemmour va éclater dans les prochains mois?
Ah, il y a beaucoup de gens qui aimeraient bien. Je vais vous dire, moi, je regarde ça, c'est intéressant, on les analyse, c'est très intéressant, surtout pour la sociologie des soutiens, etc. Mais il faut bien comprendre que je pense que ce que ça traduit, c'est le fond de mes idées et de mon discours. D'ailleurs, vous avez vu, tous les candidats me courent après. Maintenant, Madame Pécresse ne parle plus que d'immigration. Elle n'en a pas parlé pendant toute sa carrière. Marine Le Pen, qui voulait justement ne plus en parler, maintenant on reparle. Barnier, j'espère qu'on en parlera. Lui aussi, il ne parle que de ça. Je pense que au moins, j'ai, et j'en suis vraiment heureux parce que je pense qu'il en va de la survie de la France, j'ai imposé ce thème-là dans la présidentielle, ce qui n'était jamais fait dans les présidentielles précédentes.
Éric Zemmour est l'invité de Punchline ce soir, c'est parti pour le débat.
Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari.
Il est 18h si vous nous rejoignez à l'instant sur CNews et sur Europe 1. Éric Zemmour est l'invité de Punchline. Éric Zemmour, un sondage donc qui vous donne pour la première fois au second tour face à Emmanuel Macron. Quel intérêt auriez-vous à annoncer votre candidature dès maintenant ?
Aucun, puisque je ne le fais pas.
C'est pour ça que vous ne le faites pas ?
Voilà, exactement.
Parce que vous pensez que vous baisseriez tout de suite ?
Ah non, je ne crois pas du tout. Je ne crois pas du tout, mais je pense qu'il faut choisir le bon moment. Il faut être sûr de ma décision, il faut être sûr que je peux y aller comme ça, qu'il y a les éléments matériels qui accompagnent ce genre d'aventure. Financement, parrainage, etc. Vous voyez, donc il y a des choses matérielles, hein, on sait tous. Et comme je suis un nouveau venu dans cette affaire, vous savez, moi, je ne suis pas un chef de parti qui a besoin de se présenter pour financer ses affidés. Je suis pas mon identité ne se définit pas par candidat à la présidentielle, comme d'autres. Je découvre au fur et à mesure et j'observe et je regarde et je me dis, bon, est-ce que je peux y aller, est-ce que je ne peux pas y aller, est-ce qu'il faut y aller, etc. Voilà. Et effectivement, ce sondage, vous avez tout à fait raison.
Le jeu est ouvert, là.
Non, mais ces sondages, parce que bon, ça fait un mois que la progression est incessante, ces sondages m'encouragent plutôt, je vous l'accorde.
Effectivement, est-ce que vous aurez à un moment l'envie de présenter un programme avec des mesures concrètes? Pour l'instant, vous faites beaucoup de constats, beaucoup de diagnostics. On attend toujours les propositions concrètes d'Éric Zemmour.
Mais alors, je vais vous répondre deux choses. La première, Emmanuel Macron a donné son programme en mars 2017.
C'est votre modèle.
J'ai le temps. Non, mais
c'est votre modèle de campagne.
Bah, en tout cas, ce n'est pas mon modèle, ce serait plutôt mon anti-modèle, mais c'est une autre discussion. Oui, en quelque part, au moins, il est venu sans parti, etc. Il a créé son propre parti, et puis il a donné son programme en mars, il disait « c'est pas la peine ». Et je comprends mieux ce qu'il disait. Alors là, tout simplement parce que vous me dites des propositions concrètes. Mm-hmm. Mais l'élection présidentielle, ce n'est pas l'élection au poste de Premier ministre. Ce n'est pas l'élection au poste de ministre de la Culture ou ministre des Finances. C'est, si vous voulez, l'enjeu de l'élection présidentielle, c'est la France. Donc oui, je pose des diagnostics, oui, je ne vais pas me perdre dans des propositions, même si vous avez remarqué que j'en donne beaucoup en vérité. Mais j'essaye de poser la question au niveau où elle doit être posée, où les institutions l'exigent, c'est-à-dire la France. Le destin de la France, le sort de la France, l'avenir de la France... Vous voyez, c'est ça mon objet. Et j'essaye de mettre, moi je pense que contrairement à ce que vous dites et contrairement à ce que disent tous les candidats, je vois, il n'a pas de proposition, il n'a pas dit combien il allait augmenter ceci. Non, ben non, pour l'instant je ne le dirai pas. Parce que je pense que...
Que vous n'avez pas d'idée ?
Non, c'est pas parce que j'ai pas d'idée. Si vous voulez, parce que je pense que ce n'est pas le niveau de l'élection présidentielle. Voilà. Le niveau de l'élection présidentielle, c'est le destin de la France, à 10 ans, à 20 ans. C'est ça l'élection, c'est pour ça que ça a été fait. Sinon, on aurait gardé un régime parlementaire à l'allemande ou à l'italienne et on aurait fait des élections classiques tous les 5 ans. Vous voyez ? Non, la France, le général de Gaulle a voulu une monarchie républicaine. Et il a voulu ça pour que, d'abord, on puisse justement passer par-dessus les partis. Hein, la rencontre d'un homme et d'un peuple, vous connaissez la célèbre formule.
Ou d'une femme.
Absolument, un homme avec un grand H. Ou alors, qu'on puisse mettre, si vous voulez, le débat politique au niveau le plus élevé possible, c'est-à-dire la France. Quelle vision de la France, quel destin de la France. Moi, je pense en plus que la France est en danger de mort, sa civilisation, sa culture, son peuple. Donc je pense que c'est le niveau de la présidentielle. Alors, me demandez pas telle mesure, on peut en parler, ça m'intéresse, vous voyez, j'en donnerai, vous inquiétez pas. Mais je pense que là, ce n'est pas encore le moment venu.
Les Français, pour eux, la première préoccupation des Français, ça reste le pouvoir d'achat. Loin devant la sécurité, l'immigration, qui sont vos thèmes de prédilection. Le pouvoir d'achat, la vie chère, ça c'est une partie de l'électorat, évidemment, auquel vous devez parler.
Mais, je vais vous dire, évidemment que le pouvoir d'achat des gens, c'est important pour les gens. Et donc pour moi, et donc pour tout le monde. Et les gens, ils s'intéressent à combien, la fameuse fin de mois, combien ils vont acheter ça, combien c'est humain. Ça c'est la vie de tous les jours, que je connais comme tout le monde, etc. C'est pas le sujet. Évidemment qu'il faut parler de cela, on en parle si vous voulez après, mais ce que je veux dire, c'est qu'il faut jamais oublier que l'important, c'est de placer le débat à un certain niveau. Si vous voulez qu'on parle du pouvoir d'achat, on en parle, il n'y a aucun problème.
Non, mais à la lueur du livre de Jérôme Fourquet, La France sous les yeux, lui il estime que le grand remplacement, ce n'est pas ethnique, pas seulement ethnique, il dit que c'est un remplacement économique, culturel, social, que la France est devenue un immense hypermarché, un immense supermarché de consommation. Il dit que c'est ça, au fond, le véritable clivage.
Je ne suis pas d'accord avec Jérôme Fourquet. Je pense, vous savez, cette critique de la consommation, c'est un peu daté. Quand j'étais petit, dans les années 70, on la faisait déjà. C'est dans la foulée de mai 68. Donc on critique la société des consommations depuis à peu près 50 ans. C'est pas le sujet, pardonnez-moi. Le sujet, c'est effectivement ce fameux grand remplacement, c'est-à-dire qu'il y a un peuple qui remplace un autre dans d'innombrables endroits, qui tiers-mondise le pays avec une civilisation différente, une civilisation islamique qui n'a pas les mêmes valeurs que la civilisation française et européenne, qui est même antagoniste et antinomique. Donc c'est ça que je dis. Je dis donc,
c'est
est-ce qu'on veut...
un peuple français qui remplace un autre peuple français, c'est ce que vous dites.
Non, c'est un peuple étranger qui remplace un peuple français. Et c'est une civilisation étrangère, une civilisation islamique, qui remplace un peuple ici, issu d'une civilisation chrétienne, gréco-romaine, depuis 1500 ans. Voilà, c'est ça l'enjeu. Alors après, on peut parler du pouvoir d'achat. Ce n'est pas négligeable, vous comprenez. Mais simplement, je veux situer le débat à une certaine hauteur.
Vous essayez, vous, de faire l'alliance entre les classes populaires, celles qui sont aussi préoccupées par le pouvoir d'achat, et la bourgeoisie. C'est un peu votre souhait. Vous voulez ce trait d'union-là. Aujourd'hui, c'est plutôt Marine Le Pen qui a entre les mains, en tout cas jusqu'à présent, l'électorat populaire, et la droite qui avait l'électorat un peu plus classe moyenne. Comment est-ce que vous pouvez penser faire la jonction?
Eh bien, écoutez, je la fais déjà. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, je regarde les sondages et en particulier la composition. Je ne sais pas si vous avez regardé le sondage dont vous m'avez parlé. Au-delà de mes 17%, il y a un chiffre très intéressant. C'est que mes soutiens éventuels se répartissent très équitablement entre l'électorat de Marine Le Pen, 30%, et l'électorat de François Fillon à la présidentielle de 2017, 30%. Je suis le seul. Marine Le Pen, vous voyez le chiffre de l'électorat de François Fillon, il n'y a quasiment rien. Les autres candidats de LR, l'électorat de Marine Le Pen, il n'y a personne. Vous voyez, je suis exactement le seul. Pourquoi? C'est parce que d'abord, c'est comme ça que je conçois une majorité qui pourrait affronter victorieusement Emmanuel Macron. C'est pour ça que j'ai dit depuis le début, je sais que ça a beaucoup agacé certains, que Marine Le Pen n'avait aucune chance de gagner et que le candidat de LR n'avait aucune chance de gagner, tout simplement parce qu'il ne faisait pas cette jonction. Et deuxièmement, c'est une jonction historiquement très, très classique. Hein. C'est l'alliance du gaullisme, c'est l'alliance du bonapartisme. Et plus, de façon plus moderne, c'est l'alliance qui a permis à Trump de gagner, c'est l'alliance qui a permis à Boris Johnson de gagner. Vous voyez, c'est d'après moi la seule solution. Et vous remarquerez que, et ça me ravit vraiment, que je suis le seul, à côté des autres candidats à déclarer, à faire cette jonction entre les classes populaires et la bourgeoisie patriote. Parce que je pense que c'est la seule façon d'affronter l'enjeu existentiel de notre pays.
Marine Le Pen, vous dites, a passé son tour. Elle devrait se démettre en votre faveur. Gilbert Collard, aujourd'hui, demande à ce que vos forces se rejoignent. Il va vous voir dans quelques jours. Il dit que le pont, il faut le franchir et qu'il faut que vous soyez main dans la main. Vous êtes prêt à cela?
Je vais le voir parce que je vais à Nîmes, dans sa belle région.
Mais pour parler de ça?
Comment?
Pour parler de ça?
Non, je n'étais pas Marine prévu ça. J'étais invité pour parler de mon livre que vous avez sur le vote bouillant.
La France n'a pas dit son dernier
tout,
mot.
N'oubliez pas que je vais en tournée dans toute la France pour promouvoir ce livre. Non, alors... moi, je ne demande rien, je ne dis pas qu'elle est, comment vous avez dit, qu'elle doit passer son tour, qu'elle a passé
si,
son tour.
Si, vous l'avez dit, ça.
Non, je vous assure que je n'ai pas dit ça. Non, je n'ai pas dit ça. Je n'ai rien contre Marine Le Pen. Je n'ai rien contre elle personnellement. Je pense simplement qu'elle ne peut pas gagner et qu'elle a fait les mauvais choix stratégiques et tactiques. Voilà, et qu'elle le paye. C'est tout, mais vous savez, on a le droit d'être en désaccord avec des gens qu'on ne déteste pas. Il n'y a rien, je n'ai pas d'hostilité à l'égard de Marine Le Pen. Et je ne lui demande pas de se retirer. Et je ne la bats pas de mon mépris comme elle quand elle disait que j'étais la Taubira de la droite nationale. Vous voyez, non, je comprends, elle est courageuse, elle est valeureuse. Moi, je n'ai vraiment rien contre elle. Simplement, je fais mon diagnostic qui est tiré d'une analyse sociologique et politique. Vous savez, je pense que je raconte dans mon livre que j'ai eu une discussion avec elle là-dessus et je peux le dire publiquement, parce que ce que je dis en privé, je dis la même chose en public. Elle me dit, il faut atténuer mon discours, le rendre moins clivant, parce que sinon les Français ont peur, etc. Et moi, je lui dis, tu te trompes d'époque. Ça, c'est un discours, là, l'élection présidentielle se gagne au centre, très années 80. Je pense que tu as tort et que tu te trompes. Et je pense que j'ai eu raison. Voilà, c'est tout.
Mais si
les fautes de temps en politique...
Certains cadres du Rassemblement National veulent venir vers nous, vous leur ouvrez les bras, j'imagine.
Mais écoutez, accordez-moi une chose. Ça fait 20 ans que je dis que le barrage au Front National est une bêtise, que Jacques Chirac aurait dû s'allier à Jean-Marie Le Pen et ainsi ne pas tomber dans le piège tendu par François Mitterrand, que tous les gens qui fondent leur identité sur cette séparation rigide entre le Rassemblement National et les LR, ou je sais pas comment on appelle ça, l'UMP ou je sais pas quoi, c'est ridicule et c'est stupide. Je pense qu'il faut rassembler ces électorats et il faut rassembler les classes populaires, la bourgeoisie patriote dans un grand mouvement qui est le gaullisme en vérité, le RPR. C'est pour ça que j'ai dit le RPR, c'est moi. C'est assez
80,
simple à comprendre.
Le RPR des années 80.
Absolument.
Le soutien de Jean-Marie Le Pen, qui dit qu'il vous soutiendrait si vous êtes le candidat du camp national qui est le plus mieux passelé. Vous le prenez, ce soutien-là ?
Mais je prends tous les soutiens. Moi, vous savez,
y compris celui de Jean-Marie Le Pen.
Je prends tous les soutiens. Jean-Marie Le Pen est un citoyen français. Comme les autres, et s'il me soutient, il me soutient. J'ai d'autres soutiens. J'ai eu, pendant l'été, Brigitte Bardot qui m'a soutenu. J'ai Jean-Frédéric Poisson qui aussi se rallie à ma candidature éventuelle. Donc, moi, je prends tous les soutiens des gens différents. Je veux, si vous voulez, je pense qu'on ne peut affronter Emmanuel Macron que si on rassemble ces électorats dont j'ai parlé. Donc, je ne vais pas dire aujourd'hui, ah ben non, je ne veux pas celui-là, je ne veux pas celui-ci. Non, non, il ne faut plus faire ça.
Et du côté des Républicains ? Est-ce que là aussi, on voit qu'il y a beaucoup de mal à se mettre d'accord pour trouver un candidat ? Qu'est-ce que vous espérez ? Qu'il y ait deux candidats à Les Républicains, afin que ça vous facilite la tâche ?
J'espère rien. Ils font ce qu'ils veulent à LR. Ils sont dans des combinations politiciennes. Au début, c'était Bertrand qui devait sortir. Et puis maintenant, j'apprends par des rumeurs qu'ils ont tous fait fond sur Barnier. Barnier, c'est leur nouvelle idole. Je vois des gens qui sont très proches de moi, hein, qui pensent comme moi pour beaucoup et qui soutiennent M. Barnier, qui aujourd'hui découvre, par exemple, que la Cour de justice européenne et la Cour européenne des droits de l'homme nous empêchent d'avoir une politique sérieuse contre l'immigration. Toute sa vie, vous savez, je le connais Barnier depuis 40 ans. Je l'observais à la fin des années 80 dans les réunions du RPR, où il se faisait lyncher et agonir d'injures par les vieux gaullistes qui détestaient et qui le traitaient de traître parce qu'il était un européiste furieux, un fédéraliste furieux. Mmh. Monsieur Barnier, tout ce qu'il dit aujourd'hui est le contraire de toute sa vie. Il a été un commissaire européen, il a encouragé le fédéralisme européen, il a encouragé le développement du droit européen et de cette injonction des juges européens qu'il dénonce aujourd'hui. Il a été ministre des Affaires étrangères pour le référendum
de
2005.
Vous le redoutez plus que Xavier Bertrand ?
Comment ?
Vous le redoutez plus que Xavier Bertrand ?
Mais je redoute personne, moi, vous savez.
Personne.
Non, je redoute personne. J'ai des convictions et des idées. Les autres, s'ils en ont, on discute, on débat, c'est la démocratie. Il n'y a rien à redouter, voyez. Mais je tiens à préciser les choses. Et je trouve bizarre que des gens qui sont plutôt d'accord avec moi soutiennent M. Barnier pour d'obscures raisons politiciennes. Je pense que LR va mourir de cette politique aigrie.
Éric Zemmour est notre invité ce soir dans Punchline sur CNews et sur Europe 1. On revient dans un instant, on parlera d'Emmanuel Macron. Est-il votre véritable adversaire ? Je vous pose la question dans quelques secondes. À tout de suite.
Europe 1. Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
On se retrouve dans Punchline. Notre invité ce soir, c'est Éric Zemmour. Pour son livre, La France n'a pas dit son dernier mot aux éditions Rubempré. Éric Zemmour, Emmanuel Macron est désormais votre adversaire numéro 1. Vous vous posez comme son challenger aujourd'hui. Vous installez le débat avec lui sur le registre civilisationnel. Vous dites que ce sont deux visions de la civilisation qui vont s'affronter. La sienne, c'est quoi ? Celle d'une civilisation néolibérale, ouverte au monde entier, et la vôtre ? C'est laquelle ? Une France qui se rétrécit, qui se recroqueville sur elle-même ?
Ah, mais là, vous reprenez les éléments de langage de Macron.
Je vous pose la question.
Alors, écoutez, oui, il y a un affrontement de civilisations. On n'a pas la même vision de la France, de la modernité, de l'histoire de France même. Ça, vous avez tout à fait raison. Et je n'ai pas attendu ce sondage pour le penser. Je raconte dans le livre, d'ailleurs, quand il m'a téléphoné, quand je me suis fait agresser, et je raconte que la discussion est tout de suite partie. C'était assez intéressant et sympathique, mais la discussion est tout de suite partie sur un débat de fond, sur quelle France, etc. Donc je pense que oui, je pense que lui, je ne dirais pas même libéral, je pense qu'en fait, lui, c'est l'homme de la mondialisation heureuse. C'est l'homme qui pense qu'il ne faut jamais fermer les frontières. C'est l'homme qui pense qu'il n'y a pas de problème d'immigration, ou plutôt que ça, doit pas, ça va passer, qu'il y a des petits problèmes d'ajustement. C'est l'homme qui pense qu'il n'y a pas de culture française, souvenez-vous. Il avait quand même dit ça pendant sa campagne. C'est l'homme qui pense aussi, et je pense qu'on va en parler parce que c'est dans l'actualité, que la colonisation est un crime contre l'humanité. Vous voyez, c'est lui qui a dit qu'il y avait, que la France devait déconstruire son histoire. Ça, c'est Emmanuel Macron. Moi, je n'ai pas du tout de vision retrécie, fermée, ça comme on voudrait le faire à croire. C'est complètement faux. Vous savez.
Vous ne voulez pas fermer les frontières ?
Je veux fermer les frontières si nécessaire. En tout cas, je veux effectivement arrêter les flux migratoires. Ça, c'est sûr.
Donc, c'est fermer les frontières.
Absolument. Okay. Absolument. Je ne veux plus de flux migratoires à 275 000 entrées légales par an et 400 000 en tout avec le droit d'asile. Ça, oui, je veux arrêter. Surtout venant d'une civilisation très éloignée de la nôtre. Donc là, oui, je veux arrêter. Et il y a des tas de choses. En tout cas, je veux une France française. Emmanuel Macron veut, en fait, dissoudre la France dans l'Europe et dans l'Afrique. Moi, je ne veux dissoudre la France ni dans l'Europe ni dans l'Afrique.
Et pourtant, il était hier en Slovénie, un sommet de l'Union européenne. Il dit à ses homologues, attention, nous devons être clairs avec nous-mêmes pour savoir ce que l'on veut pour nos frontières, notre sécurité, notre indépendance énergétique, industrielle, technologique et militaire. Il est conscient de cet enjeu, donc, Emmanuel Macron.
Non, pardonnez-moi, il n'est pas conscient.
Il fait le diagnostic, en tout cas.
Non. Il poursuit des chimères. Il poursuit une chimère de ce qu'il appelle l'autonomie stratégique européenne, en fait la défense européenne. C'est une chimère. Pourquoi ? Parce que les Français, et lui en particulier, sont les seuls à y croire. Pour tous les autres, quand il dit qu'il faut que les Européens se mettent au clair sur ce que nous voulons, sous-entendu, comme défense. Mais ils sont très au clair, les Européens. C'est ça qu'il ne veut pas comprendre. Les Européens, pour eux, la défense européenne, ça s'appelle l'OTAN. Et l'armée qui défend l'Europe s'appelle l'armée américaine. Et le problème d'Emmanuel Macron, c'est qu'il veut à toute force faire une défense européenne au nom de ses chimères idéologiques, quitte à sacrifier l'armée française, quitte à sacrifier l'industrie de défense française, on le voit avec les accords avec l'Allemagne, quitte, vous savez...
Avec Alstom ?
Avec Alstom, jadis. Maintenant, il court après pour essayer de récupérer les fameux Arabelle, pour récupérer une compétence française qu'il a négligemment vendue quand il était conseiller, quand il était chez François Hollande, au grand dame de Montebourg, qui a bien raison sur ce thème-là. Donc, Emmanuel Macron, si vous voulez, il a un problème, je vais vous dire. Il veut sacrifier l'industrie de défense française à l'Europe et à l'alliance avec l'Allemagne. Sauf que l'Allemagne, elle, ne sacrifie jamais son industrie et surtout ne renoncera jamais à ses choix stratégiques faits en 1945, c'est que, in fine, sa défense et sa politique étrangère sont définies par les États-Unis d'Amérique. Et donc, quand Emmanuel Macron se soumet à l'Allemagne en se disant « on va faire le couple franco-allemand », en vérité, il se soumet aux États-Unis. Et ça fait 4 ans que ça dure. Et ça fait 4 ans qu'il sacrifie notre politique étrangère. On a vu un de ses proches dire qu'il allait même donner le poste, le siège de membre du Conseil de sécurité à l'Europe. Hein, vous vous rendez compte, c'est ce que le général de Gaulle a obtenu de haute lutte. Et là, Emmanuel Macron, même s'il a démenti, je n'y crois pas une seconde, en fait, il a fait ce qu'on appelle un ballon d'essai pour voir les réactions. Et ben moi, je vous dis, ma réaction, ça serait un scandale. Il serait un criminel contre la France.
C'est pas l'ordre du jour pour l'instant.
Mais je sais bien que c'est ce qu'ils ont dit. Mais vous connaissez la technique.
La République En Marche, en tout cas, a bien compris qu'il fallait vous cibler. Jean-Marc Borrello, délégué général, vous a qualifié ce week-end de peste brune, de virus nouveau qui représenterait 15% du corps électoral. Il vous compare à une maladie.
Vous vous rendez compte quand même, parce que ça veut dire qu'il traite de virus et de peste, de nazis, 15% de la population. Des gens qui pensent comme moi. Il les traite quasiment de nazis. On va loin. C'est là toujours la même technique, mais tous ces gens sont d'anciens socialistes. C'est comme Véran. Ils ont sucé le lait des MJS et compagnie. Vous savez, Mitterrand disait, le MJS, c'est l'école du vice. Tous ces socialistes-là, ils sont restés socialistes. C'est-à-dire qu'ils détestent la France. Et quand M. Borrello parle pour moi de virus, vous savez à quoi ça me fait penser ? C'est très simple. C'est la vieille technique soviétique, communiste, de mettre les opposants dans des asiles psychiatriques en disant qu'ils sont malades et qu'ils sont des malades mentaux. C'est exactement ce que fait M. Borello. M. Borello est une espèce de stalinien mal dégrossi qui a simplement remplacé le marxisme par l'idéologie LGBT. Voilà, c'est ça M. Borello. Donc, si vous voulez, moi, effectivement, je n'ai rien à voir avec ce M. Borello et qui continue d'insulter les Français, moi, ça ne me dérange pas.
Il y a un sujet dans l'actualité qui concerne les thérapies de conversion. Aujourd'hui, l'Assemblée nationale a voté en première lecture un nouveau délit contre ces thérapies de conversion qui sont censées guérir, entre guillemets, l'homosexualité, comme si l'homosexualité avait besoin d'être guérie. Je sais qu'il y a un sujet qui est très important, c'est la question des transgenres, qui travaille beaucoup la jeunesse française aujourd'hui. Le ministre de l'Éducation nationale a publié une circulaire pour que l'on prenne mieux en compte, au cœur de l'école, l'intégration de ces élèves qui, parfois, femmes se sentent hommes et inversement. Cela à la lueur du suicide d'une jeune fille il y a un an. Est-ce qu'il est important de prendre en compte la diversité des élèves en matière de genre ?
Écoutez, je ne connais pas ce jargon. Pardonnez-moi, hein, mais pour
genre,
moi, c'est un...
Féminin, masculin.
Oui, absolument. C'est un jargon. Moi, je connais les filles et les garçons, les hommes et les femmes. Je suis quelqu'un de simpliste. Voilà, je ne connais que ça. Et je ne connais pas les fumeuses théories du genre et les dysphories de genre, surtout avec des enfants. Je répète, ce sont des enfants. On est en train... Vous savez, cette histoire de circulaire est une abomination. Et elle montre le double discours de M. Blanquer, qui un jour tient un discours très classique, qui sonne bien aux oreilles des Français et aux miennes, je le reconnais volontiers, quand il parle de renoncer à la méthode globale, de remettre la méthode syllabique, de remettre la sélection, de remettre...
Et puis il fait tout. La chronologie.
La chronologie dans l'histoire, la langue, etc. Ah, il tient un discours pour les gens comme moi et pour l'énorme majorité des Français qui aimeraient que l'on revienne à l'école telle que nous l'avons connue, c'est-à-dire que c'était une école remarquable et qui ne connaissait que la méritocratie. Et puis par ailleurs, il fait tout l'inverse. C'est-à-dire que vous savez que dans l'algorithme, par exemple, d'inscription, le fameux Parcoursup, il a mis des éléments de discrimination positive qui ont désorganisé complètement de nombreux élèves et de nombreux parents d'élèves. Et là, pour cette histoire de genre, de transsexualité, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit en fait que les professeurs doivent se soumettre à cette nouvelle idéologie. Par exemple, si un enfant, je le répète, vient dire « Ah ben non, je ne suis pas une fille, je suis un garçon », on doit le prendre en cause, on doit ne plus l'appeler elle, on doit admettre son nouveau prénom. Et puis quoi encore ? Vous savez, c'est vraiment criminel. La vérité, c'est que qu'est-ce qu'on va faire après ? On va bloquer par des piqûres, on va bloquer la puberté de ses enfants. Parce que pour qu'ils décident après quel est leur genre. Mais vous rendez compte, on est vraiment dans le docteur Mengele, quoi. C'est des expériences absolument scandaleuses que vous faites aux États-Unis.
Vous comparez Jean-Michel Blanquer au docteur Mengele.
Je compare le fait.
Vous rendez compte de la gravité de ce que vous dites.
Ah mais tout à fait, je m'en rends compte très bien. Je compare simplement les expériences qui sont faites sur des enfants. Aux États-Unis, il y a des cliniques de transition de genre pour des enfants de 3 ans. Vous appelez ça comment, vous ?
C'est
moi, j'appelle ça des expériences du docteur Mengele.
Ce n'est pas le cas en France.
Non, ce n'est pas le cas en France.
C'est interdit en France.
Mais M. Blanquer adoube ce genre d'expérience. M. Blanquer, c'est scandaleux ce qu'il fait. Je ne comprends même pas comment il peut faire ça. C'est honteux et c'est indigne de sa part.
Il dit juste qu'il faut accueillir tous les élèves dans leur diversité. Veillez à l'intégration de chacun d'entre eux. Il y a des élèves qui ressentent un profond mal-être. Et ça, on ne peut pas le balayer d'un
regard. Tous les enfants ressentent un profond mal-être avant la puberté, pendant la puberté. C'est tout à fait naturel. Vous voyez, il faut se faire à son corps, à sa sexualité, à son sexe. On est garçon, on voudrait être fille, on est fille, on voudrait garçon. C'est tous les enfants sont comme ça. Mais depuis des millénaires.
Donc il faut faire quoi ? Les guérir ?
Non, il ne faut pas les guérir, il faut leur dire ça passera. Voilà. Il faut arrêter de tomber et de se soumettre aux injonctions abominables des militants LGBT. Ils n'ont rien à faire à l'école. Et M. Blanquer est complaisant avec ses militants LGBT. Il ne le devrait pas. C'est tout ce que je dis.
Pour vous, c'est une mode importée des États-Unis.
Mais bien sûr,
ça recouvre une réalité que vivent un certain nombre de jeunes dans notre pays.
Une mode criminelle. Criminelle. Laurence Ferrari, arrêter la puberté des enfants pour voir s'ils vont être garçons ou filles parce qu'ils ne sont pas décidés, pour moi, c'est criminel. Il n'y a pas d'autre mot.
Comment est-ce que vous comptez attirer l'électorat des jeunes en ayant des propos aussi définitifs sur ce qu'ils ressentent dans leur vie quotidienne ?
D'abord, je pense que ces jeunes-là dont vous parlez sont victimes d'une propagande. Voilà. C'est de la propagande. On ne se posait pas ces questions auparavant. C'est de la propagande, je le répète. Et M. Blanquer est coupable de céder à cette propagande-là. Maintenant, si vous voulez, les jeunes, il y a beaucoup de jeunes qui me suivent. Je ne sais pas si vous avez vu les images de ma conférence à Lille. Il y avait d'innombrables jeunes. Il y a énormément de jeunes qui entendent mon discours pour une raison simple. C'est qu'ils vivent, dans leur chair, la société et le pays que nous leur avons fabriqué à force de naïveté, à force de lâcheté, cette société multiculturelle que nos aînés ont vantée et qui se retrouve une société multicriminelle. Aujourd'hui, ces jeunes, ils peuvent mourir pour une cigarette refusée ou pour un regard qui ne plaît pas à certains. Regardez, vous avez vu cet élu qui a dit qu'il y a une épuration ethnique dans sa ville.
Gilles Latray, les Républicains.
Voilà,
mot épuration ethnique ne vous fait pas...
Mais c'est ce qui...
Ne vous évoque pas, vous qui aimez l'histoire, une page sombre dans notre histoire.
Mais vous savez, quand... Écoutez, moi j'aimerais bien savoir comment vous appeler. Quand dans un quartier, dans une ville, dans une banlieue, il y a une population qui vient du sud, de l'autre côté de la Méditerranée, et qui chasse par le nombre, par la violence, par le changement de mœurs, qui chasse la population qui était là. Elle ne vit pas avec elle. Elle la chasse parce qu'elle impose son mode de vie. Comment vous appelez ça, sinon,
donc
épuration ethnique ? Moi, j'appelle ça colonisation. Vous voyez ?
Donc, vous n'êtes pas sur le même vocable, on est
d'accord ? Non, moi, chacun son vocabulaire.
Ça évoque quand même le meurtre de masse de la Seconde Guerre mondiale.
Oui, il n'y a pas de meurtre de masse, il y a un remplacement de population. Moi, j'appelle ça une colonisation. Vous savez, on appelait ça les territoires perdus de la République. Aujourd'hui, il y a M. Rougier, qui est un grand universitaire, qui est l'élève de M. Keppel, qui est un des grands spécialistes de l'islam en France, qui parle de territoires conquis de l'islamisme. Ce sont des territoires conquis, ce sont des territoires colonisés par une civilisation différente et qui est souvent antagoniste. Donc, si vous voulez, il faut comprendre la situation. Et cette colonisation se fait par le nombre et par la violence. Vous avez vu le film Bac Nord, comme tout le monde en France.
Oui.
Vous voyez ce que sont devenus ces quartiers.
Il n'y a pas besoin d'un film pour voir la réalité
non,
dans certains
vous avez
quartiers.
Tout à fait raison,
juste pour revenir sur le plan sociétal, leur mariage homosexuel, vous voulez y revenir ?
Écoutez, moi j'étais contre. Je continue d'être contre.
Mais vous ne le défendez pas.
Je ne sais pas, ce n'est pas une priorité. Vous avez vu, c'est une infime minorité. Je pense qu'il y a un vrai souci avec le mariage homosexuel parce qu'il a entraîné les conséquences sur la PMA sans père. Je suis contre la PMA sans père. Vous voyez, ça, oui, j'arrêterai volontiers ça. Je pense qu'une fois de plus, Emmanuel Macron, vous voyez, vous cherchiez une différence. Eh ben, Emmanuel Macron, lui, il a fait voter une loi favorisant la PMA sans père. Et il explique qu'une femme peut être un père. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je suis contre la PMA sans père. Je suis contre la PMA pour les couples de femmes. Je suis pour que les enfants aient un père et une mère. C'est tout simple, encore une fois, je suis peut-être simpliste, je ne suis pas aussi sophistiqué que M. Macron, mais je pense que les Français pensent comme moi.
Et vous ne pensez pas à toutes ces femmes qui ont envie d'avoir des enfants et qui sont aujourd'hui dans ces centres de PMA qui sont débordés
mais
devant l'afflux de demandes.
Madame Ferrari, je comprends très bien la souffrance de ces femmes. Je comprends très bien. Je comprends très bien qu'elles aient envie d'avoir un enfant. Mais un enfant, on ne l'achète pas dans un supermarché. Excusez-moi, moi, pour moi, on fait un enfant, on n'achète pas un enfant. Moi, ça me choque. Et j'estime qu'on n'a pas un droit à un enfant. On n'a pas un droit à un enfant parce qu'on a envie d'avoir un enfant. Non. L'enfant, lui, il a besoin d'un père et une mère. Et pour se développer, il a besoin d'un père et une mère. Il peut arriver qu'il n'y en ait pas. Les accidents de la vie, etc. Mais c'est un accident. Et c'est un handicap. Vous parlez avec tous les gens qui n'ont pas eu de père, parce qu'il était mort, parce que vous avez lu ce livre sublime de Camus, Le Premier Homme, qui raconte comment il va sur la tombe de son père mort pendant la guerre 14, et vous voyez la souffrance d'un enfant qui n'a pas de père. Voilà. Donc, moi, je pense que c'est, encore une fois, criminel d'avoir instauré ça.
Criminel,
une fois de plus.
Criminel.
Oui, criminel. Et une fois de plus, oui, pour l'enfant à venir.
Mais l'enfant à venir, quand il est né dans une famille hétérosexuelle qui lui tape dessus toute la journée, qui le maltraite, franchement, est-ce qu'il n'est pas mieux dans une famille avec des parents homosexuels qui l'aiment et qui l'élèvent ?
Mais ça, c'est
mais
un
non, c'est un argument réel
qui... mais non, pas du
de
tout,
la vie
mais
de
pas
tous les
du
jours.
Tout, mais pas du tout. Franchement,
vous
pas
connaissez
du tout.
Le nombre d'enfants maltraités dans notre pays ?
Oui, mais j'en sais pas. Je ne sais pas le nombre d'enfants maltraités dans notre pays, mais il y a toujours eu des enfants maltraités. C'est triste, il faut les punir. Il faut punir ces gens. Mais il n'empêche qu'un enfant, même maltraité, a besoin d'un père et une mère. Vous me pardonnez.
C'est inéluctable pour vous.
Oui, c'est
on ne peut pas faire autrement.
Oui.
On non, crée on des générations faire. Comme ça d'enfants déséquilibrés.
Mais...
On ne peut pas vivre sans un père et une mère ?
Non.
Vous ne connaissez pas la résilience ?
Mais si, mais on peut, justement, c'est ce que je vous dis. On peut toujours, il y a des accidents. Mais la loi C'est pas pareil que de dire il y a des accidents dans la vie, oui, d'accord, et on se bat contre ça et on est résilient, comme vous dites, et puis instaurer par la loi le fait de ne pas avoir un père. Je pense que... Mais Emmanuel Macron, il est cohérent intellectuellement. Il pense qu'un père n'est pas forcément un homme. Il est cohérent. C'est sa vision de l'humanité post-genrée, etc. Il est dans cette ligne-là. Moi, je suis hostile à cette ligne-là. C'est tout.
Et sur l'euthanasie ? C'est-à-dire ? Est-ce que vous êtes favorable à l'euthanasie ?
Ouh là là, alors là, c'est... Non,
on
je
fait
suis
le
pas
champ des questions sociétales.
Pardon,
voilà.
Je ne suis pas favorable, comme ça, vous me le dites de but en blanc. Je ne suis pas favorable à l'euthanasie. Sociétales. Je suis favorable à ce que les gens ne souffrent pas. Et la loi Leonetti, là, me paraissait un équilibre assez intelligent. Je ne suis pas pour qu'on puisse, comme ça, piquer des gens pour les achever. Mais je suis pour qu'on simplement, on ne y ait pas on ne persévère pas dans une sorte d'acharnement thérapeutique. Ça, oui. C'est pas la même chose.
Éric Zemmour est notre invité. On se retrouve dans un instant. Nous rejoindrons François Pupponi, député MoDem, et Jean-Claude Dassy pour aborder de nouveaux thèmes. A tout de suite dans Punchline sur CNews et sur Europe 1.
Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1.
On se retrouve dans Punchline avec notre invité Éric Zemmour. On est sur CNews et sur Europe 1. Dans un instant, une question de François Pupponi, une question de Jean-Claude Dassier. Peut-être d'abord encore une question sur l'Algérie, la crispation des relations entre la France et l'Algérie, à propos de certains mots du président Macron sur une rente mémorielle que se serait construite l'Algérie depuis son indépendance. Et sur cette question qu'il aurait posée, est-ce qu'il y avait une nation algérienne avant la colonisation française ? C'est ça la question.
Il a dit ça ? Il a tout à fait raison. Moi, j'ai la réponse. J'ai la réponse, il n'y avait pas de nation algérienne avant la colonisation.
Pourquoi ?
Parce que c'est la France qui a fait l'Algérie. L'Algérie est une colonie depuis toujours. Elle a été colonisée par les Romains, elle a été colonisée par les Arabes, elle a été colonisée par les Espagnols, elle a été colonisée par les Ottomans, les Turcs, et elle a été colonisée enfin par la France en 1830. Le gouvernement algérien, le pouvoir algérien, issu du FLN, ne parle que de la colonisation française. Il y a d'autres colonisations avant. Et en plus, il parle de la colonisation française pour uniquement parler de ses crimes. Je sais bien qu'il y a eu des crimes, mais il y a eu aussi des hôpitaux, des routes, des trains, des aéroports, des villes entières, Alger entièrement. Si vous voulez, j'aimerais qu'on me donne un hôpital laissé par l'Empire ottoman. Et après, on discutera. Donc ça, c'est une première chose. Maintenant, Emmanuel Macron n'a que ce qu'il mérite. C'est-à-dire que pendant sa campagne de 2017, il a dit... La colonisation est un crime contre l'humanité. Donc, les autorités algériennes se sont dit, enfin, on trouve un président qui va faire repentance et qui va nous dire que la France doit s'excuser, se met platement en s'excusant de la colonisation, etc. Les gens du FLN oublient qu'eux-mêmes sont des colonisateurs, puisque les Arabes sont des colonisateurs sur les Berbères. J'en sais quelque chose, mes ancêtres étaient là avant. Et ils ont été colonisés par les Arabes. Donc, c'est une suite de colonisation. Sauf que Macron a ouvert la boîte de Pandore et que depuis, il ne tient pas, entre guillemets, ses promesses. Donc, les dirigeants algériens sont furieux contre lui. Et donc, voilà, c'est de sa faute entièrement. Il ne leur parle pas franchement. Il faut leur parler franchement. Vous savez, les Algériens, moi, je connais un petit peu, mes ancêtres en Vienne, ce sont des gens fiers, farouches, mais qui respectent la parole donnée et qui n'aiment pas le louvoiement et qui n'aiment pas le « en même temps ». Emmanuel Macron est l'apôtre du louvoiement et du « en même temps ». Eh bien, il le paye.
François Pupponi, député MoDem du Val-d'Oise, vous avez une question à poser à Éric Zemmour sur l'immigration.
Oui, moi j'entends, je peux partager certaines des analyses sur, dans les quartiers, comment ça se passe, le remplacement, parce que c'est une, je le vis quotidiennement. Parfait. Et un certain nombre de personnes que je connais partent en disant « je ne m'y retrouve plus », très bien, on entend. Mais vous dites donc que tout ça est dû à l'immigration et dû à l'islam. Là, on peut avoir un désaccord sur le rôle de l'islam dans notre pays, parce que je pense qu'on est en désaccord. Mais sur l'immigration, moi, je veux bien comprendre, vous dites, il y a 270 000 à peu près personnes qui sont accueillies tous les ans, et on en rajoute 110 000 à qui on donne la nationalité française, qui sont étrangers, à qui on donne la nationalité française.
Je vous laisse finir, voilà. je reprendrai vos chiffres, si vous me permettez.
La question, si on leur dit, vous leur dites non, il n'y a plus. Donc c'est-à-dire que par exemple, il y a 90 000 étudiants qui viennent étudier dans notre pays, et ça peut nous rendre service que ces gens viennent étudier dans notre pays, parce qu'ils peuvent avoir de la réciprocité, à qui on dit, il n'y a plus. Il y a 90 000 personnes qui viennent rejoindre leur conjoint français, qui vit en France, qui est français, mais qui sont mariés, par exemple, avec des étrangers, à qui on dit, bah, vous, non, vous venez plus. Voilà.
Absolument.
Donc, c'est-à-dire qu'on dit à des familles, dont un des membres est français, qui veut faire venir sa famille. Moi, je, par exemple, j'ai un couple d'amis, lui est français, sa famille est israélienne, on va dire à la femme, ah non, vous restez en Israël, le mari est en France, alors, vous, on peut voir. Donc, la question, c'est quand on détaille les 270 000 à peu près qu'on accueille tous les ans. À qui on refuse ? À tout le monde ? Ou est-ce qu'on accepte quand même qu'un certain nombre d'individus, de personnes, d'autres viennent pour des raisons économiques, à la demande d'entreprises françaises ? Attendez. À qui on dit oui, à qui on dit non ?
Vous connaissez les chiffres, donc, comme moi. Sur les 275 000, il y a 90 000 immigration familiale, c'est-à-dire regroupement familial, plus que vous avez
plus
dit, les femmes qui viennent, etc. Il y a 90 000 étudiants et il y a 14% pour le travail.
Oui, économique, oui, voilà. D'accord.
Uniquement 14%. Vous savez que le taux de chômeurs et d'inactifs en France est de 13%. Chez les étrangers extra-communautaires, il est de 40%. Nous n'avons pas besoin de tous ces gens. Ces gens n'ont pas à être sur le territoire français. Quand vous me dites, vous avez quelqu'un qui est marié, qui se marie avec une étrangère et qui l'a fait venir, on appréciera au cas par cas. Il faut désautomatiser. Voilà. Le problème, c'est que depuis 40 ans, au nom de l'état de droit, on a donné des droits aux immigrés de faire venir automatiquement tous ceux qu'ils veulent. Et on va chercher la femme au bled et on la fait venir.
C'est
on va chercher les enfants et on va chercher les parents et on va chercher les grands-parents et on va chercher les cousins. Et je ne vous parle pas des fausses cartes vitales et compagnie. Ça sera terminé.
Ça, on est d'accord. Mais moi,
on est d'accord.
Non, mais je parle de l'immigration légale.
Mais moi aussi, je parle de l'immigration légale.
Ceux qui font venir le regroupement familial, c'est 13 000 sur les 270 000.
Oui, c'est pour ça que je vous dis immigration familiale au sens large.
C'est quand même une minorité. Les autres,
je voulais pas dire
qui ont des entreprises qui disent, voilà, moi, j'ai besoin de recruter. Parce que je ne trouve pas localement.
14%, monsieur Popoli.
Oui, mais on leur dit oui ou on leur dit non à cela.
On leur dit, allez voir les Européens. Allez prendre des Polonais, allez prendre des Roumains, allez prendre des Hongrois. Comme les Allemands, je signale que les Allemands prennent en vérité beaucoup plus d'Européens que de Méditerranéens et de Maghrébins. Faisons la même chose. Les Polonais font venir des Ukrainiens.
Oui, mais on sait très bien que certaines entreprises, pour des raisons... on peut prendre un exemple, par exemple, il suffit d'aller dans les cuisines d'un certain nombre de restaurants...
Oui, absolument, vous avez tout à fait raison.
On voit bien qui accepte de travailler, de faire les tâches les moins nobles et les plus difficiles, et qu'un certain nombre de Français ou d'Européens ne veulent plus.
Mais
donc, on dira au restaurant, les Français ne veulent plus, les Européens
non,
veulent
non,
plus,
non, non, non,
vous ne faites plus rien, vous
non,
travaillez
on
plus.
On dira au restaurant, d'abord, vous pouvez peut-être augmenter vos salaires, et surtout, il y a de la formation à faire. Vous savez qu'il y a entre 400 000 et 1 million de postes qui ne sont pas pourvus aujourd'hui. Donc il y a la formation professionnelle. Et troisièmement, et c'est mon dernier point, je pense que cette histoire dans les cuisines, parce que vous avez raison, j'ai posé la question, moi aussi ça m'a frappé. Vous remarquerez que c'est le cas seulement dans les grandes métropoles.
Oui.
Merci de votre honnêteté. Dans les autres, il y a des Français dans les cuisines. J'en déduis que dans les métropoles, c'est uniquement parce qu'il faut être à côté des restaurants, en tout cas dans la banlieue proche. On ne peut pas être à 2 heures de Paris ou de Lyon et aller travailler dans un restaurant jusqu'à 11 heures du soir ou minuit. Et comme les banlieues sont uniformément occupées par des immigrés qui, venus de pays islamiques et africains, et qui ont chassé les Français et les Européens, évidemment qu'ils ne peuvent pas travailler dans les cuisines des grandes villes.
On est d'accord que ceux-là, ils sont venus parce qu'il y avait de l'emploi et qu'on leur permet
non,
mais si, il y a des besoins.
Ça, c'est les années 60. J'étais petit, pardonnez-moi.
Aujourd'hui, je prends le RER tous les matins dans Vincennes, et je peux vous dire qu'il est plein de populations issues de l'immigration actuelle et qui vont travailler à Paris parce qu'il y a des gens qui en ont besoin.
Mais je n'ai pas dit qu'il n'y avait pas des gens qui travaillaient. Je dis simplement, les chiffres parlent. 8% de chômeurs français en France en moyenne, 14% d'étrangers, 13% d'inactifs, 40% d'étrangers extra-européens. Ces 40%-là, vous les voyez peut-être dans les RER, mais ils ne vont pas travailler. Donc, ils n'ont rien à faire ici. Deuxièmement...
Mais ceux qui travaillent, on ne va pas les renvoyer.
Est-ce que j'ai dit qu'on allait les renvoyer ? Est-ce que j'ai dit qu'on allait les renvoyer ?
Très bien.
Et je dis simplement qu'il n'y a plus d'automaticité. C'est-à-dire, par exemple, d'abord, on supprime la circulaire Valls qui permet de régulariser comme ça 30 000 par an. Hein, c'était une calamité. Et deuxièmement, D'abord, la première chose, c'est restreindre les flux. Voilà. La première chose, c'est expulser les clandestins et limiter au maximum l'immigration régulière. Mais vraiment, que ça tombe vers zéro. Parce que j'assume, même les étudiants, on prendra des étudiants au goutte à goutte. Je ne veux pas de tous les étudiants africains et maghrébins qui sont là pour toucher leur bourse. Hein. Je suis désolé, mais c'est comme ça que ça se passe beaucoup. Et pas tout le temps.
Et on sait très bien que de faire venir des populations issues de l'immigration ou étrangères en France étudier avec une réfugiée, ça sert aussi la France
monsieur
pour Pupponi, l'avenir.
Monsieur Pupponi,
de vrais étudiants,
mais
je parle pas de gens qui trafiquent.
Moi, je pense qu'il y a urgence et que la France est en train de passer sous une autre allégeance, c'est-à-dire est en train d'être remplacée. Le peuple français est en train d'être remplacé. Donc là, on ne fait pas de détails. On pourra après faire des détails, on pourra dire « Oui, telle personne, les préfets pourront le faire, ils le faisaient avant. »
Bien sûr, ils le font toujours encore.
Bah voilà.
Alors, Jean-Claude Dacier, une question sur l'économie,
oui,
la dette.
Oui, sur l'économie dont, c'est pas, l'économie me semble-t-il que passera largement le redressement du pays. Faisons comme si vous étiez candidat, si vous en êtes d'accord, la dette. Elle était importante avant l'épidémie, elle est colossale. Mmh. Après l'épidémie, 2739 milliards d'euros. Comment fait-on pour rembourser? Comment feriez-vous, si vous êtes élu, pour rembourser?
D'abord, il y a deux choses bien claires. Il y a le destin de la France dont on a parlé avec M. Pupponi et il y a le déclin économique français.
Eh oui.
C'est deux choses, vous voyez, qui se recoupent d'ailleurs.
Ça se recoupe.
Bien sûr, puisque nous avons des terres tiers-mondisées. Donc, pour la dette, écoutez, on rembourse la dette déjà tous les jours, vous le savez bien. Alors vous allez me dire, on fait rouler la dette, parce qu'en fait, on ne rembourse jamais le principal et on rembourse les intérêts. Mais on les rembourse. Aujourd'hui, la France rembourse à des taux négatifs. Donc en vérité, ça ne coûte pas très cher. Vous allez me dire, si jamais les taux remontent. Certes, mais pour l'instant, ils ne sont pas remontés. Donc on a les moyens de rembourser la dette. Maintenant, alors c'était la même discussion d'ailleurs sur le pouvoir d'achat qu'on a éludé, on est passé à autre chose. Mais c'est la même chose, il faut produire. Nous avons un problème d'appauvrissement. En vérité, nous nous sommes appauvris. Nous produisons, la désindustrialisation nous a appauvris. Le libre-échange mondial, l'entrée de la Chine dans l'OMC en 2001, nous a appauvris. La désindustrialisation française, le choix de nos élites pour les services au défaveur de l'industrie, nous a terriblement appauvris. Nous sommes, vous le savez bien, l'industrie représente 13% ou 12%, ça dépend des chiffres, de la richesse nationale.
Insuffisant.
L'Allemagne, 24%.
Ah, bien sûr.
L'Italie, pareil. Et pourquoi ? Parce que tout simplement, nos entreprises, nos grands groupes ont délocalisé et nos petites PME sont mortes. Et on n'a jamais ce tissu. Et pourquoi elles sont mortes? Et pourquoi elles ont délocalisé? Parce qu'il y a trop de charges, d'impôts, de normes même. Les fameuses normes environnementales. On est en train de tuer l'industrie automobile avec les normes environnementales. Il y a trop, depuis 30 ans, de charges, d'impôts parce qu'on a payé, un modèle social. On a payé un modèle social complètement fou, ouvert au monde entier. Et là, on en revient à notre premier sujet.
Bien sûr.
En vérité, c'est lié sur le dos des entreprises.
Et au détriment du régalien.
Et au détriment du régalien. Je suis tout à fait d'accord.
Oui.
Donc, il faut faire une chose simple. Comme on ne veut pas que les Français sont attachés à leur modèle social, il ne faut pas le prendre comme ça. Il faut prendre par la solidarité nationale. C'est-à-dire que les dépenses de solidarité nationale, je veux parler de allocation familiale, de logement, allocation logement, de RSA, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas contributif, qui relève de la solidarité, soit restreint aux Français. Et que la solidarité nationale redevienne nationale. Mmh. Et déjà, vous allez voir, on va pouvoir alléger considérablement le poids de cette dépense sociale complètement folle. Vous avez donné des chiffres tout à l'heure. On a 750 milliards de dépenses sociales. On est 30% du PIB. On est recordman du monde. Donc, si vous voulez, il faut arrêter ça. Et alors, réduction du poids des prélèvements sociaux par le moyen que je vous ai indiqué, et deux, réindustrialisation, relocalisation, indispensable pour de nouveau produire et s'enrichir, si j'ose dire.
Absolument.
Et là, on réglera le problème du pouvoir d'achat, parce que c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. Aujourd'hui, on voit, il y a la distribution de bonbons.
Comment vous le réglez, ce problème ?
La distribution de bonbons. Emmanuel Macron distribue des bonbons à tout le monde.
Chèque énergie pour compenser la hausse de l'explosion des prix
Bertrand,
du gaz.
Monsieur Bertrand invente des primes à qui mieux. Et ils nous font croire que ça vient comme ça, que c'est l'argent magique, comme disait jadis Monsieur Macron. En vérité, c'est de l'argent qui va être pris sur les impôts des Français. Ou sur la dette. Donc, il faut arrêter cette distribution démagogique et produire.
Oui, mais la facture d'énergie, c'est là que les gens la payent. C'est maintenant.
Mais vous savez, on la paye. Alors là aussi, il faut comprendre bien, si j'ai une minute, facture d'énergie qui augmente, on le sait depuis des mois. Et pourquoi elle augmente? Elle augmente parce que le prix du gaz augmente. Et pourquoi on consomme plus de gaz? Parce que les Allemands ont arrêté le nucléaire et qu'ils ont mis des éoliennes partout. Et que les éoliennes, on le sait, c'est une énergie intermittente qui a besoin, pas pilotable comme on dit dans leur jargon, et qui a besoin donc d'énergie de substitution, le charbon ou le gaz. Merci les Allemands et bravo les antinucléaires.
Vladimir Poutine dit que c'est parce que l'Europe a passé de mauvais contrats et notamment pas avec la Russie.
En plus.
C'est encore une autre version.
Éric Zemmour, élu, va à l'Élysée. Qu'est-ce que vous faites sur les retraites? Et est-ce que vous êtes d'accord avec le durcissement des règlements concernant l'assurance chômage, c'est-à-dire rendre le chômage peut-être plus incitatif à la reprise du boulot.
Alors, j'étais contre la réforme à points de Emmanuel Macron,
oui,
la retraite.
Compliqué
et injuste, en vérité. Et une arnaque potentielle.
Quel âge ?
Parce qu'on diminuera le point. Moi, je suis pour le passer l'âge de la retraite à 64 ans. Ça nous fera 20 milliards d'économies.
64 ans, oui.
Et ça sera... et aujourd'hui, si vous voulez, l'espérance de vie à 64 ans est plus importante qu'en 1981, l'espérance de vie à 60 ans. Il faut bien comprendre ça. Et on a aujourd'hui 14% du PIB qui est payé pour les retraites. On a un surcoût, parce qu'on est le pays d'Europe qui travaille le moins, non pas seulement les 35 heures, mais surtout, en vérité, sur toute la vie. Et on a, par exemple, des gens entre 57 et 64 ans qui, en France, ne travaillent pas assez. Mais il faut voir les choses de l'autre côté aussi. C'est-à-dire que les patrons sont eux aussi coupables de mettre en pré-retraite des gens à 50 ans, 55 ans. Il faudrait un système de bonus-malus pour dissuader les patrons de mettre les gens de 60 ans, ou de 55 ans, ou de 50 ans au boulot. Parce que si on prolonge l'âge de la retraite pour qu'en fait, ils soient au chômage à partir de 55 ans, je ne vois pas l'intérêt. Ça serait absolument injuste. Vous voyez ?
Vous êtes d'accord pour dire qu'il faut une
c'est
politique...
C'est la dernière question, Jean-Claude.
Dernière question.
Rapidement.
Sans parler de libéralisme ou pas, on s'en moque un peu.
Oui.
Faire une politique dans les années qui viennent quand même favorable aux entreprises. Sinon...
Ah, je suis tout à fait d'accord.
D'accord.
Il faut une politique favorable aux entreprises et favorable au travail.
D'accord.
En fait, on devrait reprendre le slogan de Nicolas Sarkozy, travailler plus pour gagner plus. C'était un magnifique slogan. Il avait tout à fait raison. Et il faut encourager le travail sur l'assistanat et les entreprises sur les services. Voilà.
Éric Zemmour, Marine Le Pen, que vous venez de dépasser dans les sondages, vient de réagir, dire qu'elle n'est pas chamboulée par cela, qu'elle est sereine, qu'elle en est à sa troisième présidentielle. Elle avait pourtant dit, il y a quelques mois, qu'elle se désisterait en faveur de celui ou celle qui serait mieux placé qu'elle pour l'emporter sur le niveau de ses idées. Vous lui dites chiche ?
Non, je lui dis rien. Je lui dis je suis content qu'elle garde sa sérénité.
Mais vous la gardez, la vôtre ?
J'espère.
Merci beaucoup Éric Zemmour d'être venu ce soir dans Punchline sur Europe 1 et sur CNews. Bonne soirée à vous sur notre antenne. Dans un instant, c'est Christine Kelly et ses invités pour Face à l'info sur CNews et sur Europe 1. Je vous retrouve pour la suite de Punchline. A tout de suite. Il est 19h, si vous nous rejoignez à l'instant sur Europe 1, bienvenue à vous tous et à vous toutes. Dans un instant, la suite des débats de Punchline. Mais tout de suite, c'est le journal avec Hélène Zellani. Bonsoir Hélène.
Bonsoir. À tous.
Éric Zemmour, poil à gratter de l'échiquier politique, toujours pas candidat, mais déjà crédité de 17 à 18% des voix et qualifié potentiellement pour le second tour face à Emmanuel Macron.
Et oui, Blanc branle bas de combat au RN, mais aussi chez LR. Les Républicains réunis en bureau politique en ce moment même, Xavier Bertrand demande à la droite de se rassembler vite. Témoignage poignant au procès des attentats du 13 novembre. Premières auditions de rescapés du Bataclan. Nous serons aux assises spéciales. Le gouvernement contraint de revoir à la baisse le nombre de jeunes bénéficiaires du futur revenu d'engagement, les informations d'Emmanuel Duteil. Et puis, mourir peut attendre, le nouveau James Bond est enfin arrivé dans les salles obscures et les spectateurs valident.
La tendance météo avec vous Marlène Duret, bonsoir.
Bonsoir Laurence, la tendance plutôt nuageuse dans le nord-ouest, plus ensoleillé ailleurs, il faut parfois laisser passer la matinée pour que le soleil perce. Des vents sensibles dans le sud-est et bien sûr on fait le point à la fin du journal.
Europe 1. Il grimpe dans les sondages, Éric Zemmour. Selon l'étude Harris Interactive pour Challenge publiée aujourd'hui, le polémiste serait pour la première fois qualifié pour le second tour de la présidentielle.
17 ou 18% des intentions de vote devant Marine Le Pen qui serait entre 15 et 16. Éric Zemmour était votre invité ce soir, Laurence, sur Europe 1 et CNews. Il ne se dévoile toujours pas, mais il est encouragé par les sondages.
Je le vis très bien, je suis ravi et très heureux que mes idées, mes convictions que je défends depuis longtemps est un tel écho dans le pays. Ce que ça traduit, c'est le fond de mes idées et de mon discours. D'ailleurs, vous avez vu, tous les candidats me courent après. Maintenant, Mme Pécresse ne parle plus que d'immigration. Elle n'en a pas parlé pendant toute sa carrière.
Quel intérêt auriez-vous à annoncer votre candidature dès maintenant ?
Aucun, puisque je ne le fais pas. Et je pense qu'il faut choisir le bon moment. Mais ces sondages m'encouragent plutôt, je vous l'accorde.
Zemmour, pas encore candidat, mais il joue véritablement les chamboule-tout de la politique. Bonsoir Louis Dragnel.
Bonsoir.
On va faire un tour d'horizon avec vous de l'impact de ce sondage. D'abord, il change la donne pour Emmanuel Macron.
Absolument, c'est le premier impact parce que pour la première fois, Éric Zemmour est en mesure, si on en croit ce sondage, de se qualifier au deuxième tour de la présidentielle. Et donc forcément, voilà, très mauvaise nouvelle pour Emmanuel Macron parce qu'il rêvait d'affronter Marine Le Pen en duel, persuadé qu'il parviendrait facilement à la battre. Et ce n'est pas la même chose face à Éric Zemmour. Le président ne sait pas bien comment le saisir, comment le prendre, d'autant que la stratégie de vraie-fausse campagne du polémiste ressemble énormément à celle qu'il avait lui-même mise en place en 2016 avant de se déclarer candidat et de gagner le premier tour, le deuxième tour de la présidentielle.
Et du côté du Rassemblement National, c'est aussi une déflagration.
Oui, parce que mécaniquement, donc, si Éric Zemmour se qualifie au deuxième tour, ça veut dire que Marine Le Pen ne se qualifie pas et donc elle ne passerait plus la barre du deuxième tour. Et puis Éric Zemmour continue de siphonner ses électeurs et elle ne parvient pas pour le moment à enrayer la chute de manière précipitée. Elle a d'ailleurs nommé ses 10 porte-parole de campagne juste au moment de la publication du sondage.
Et puis Louis de Ragnel, autre signe de panique peut-être dans les rangs du Rassemblement National. Gilbert Collard, député européen, tend clairement la main à Éric Zemmour. Écoutez-le.
De toute manière, à un moment donné, il faudra bien que l'un ou l'autre nous passions sur le pont pour aller rejoindre ou l'un ou l'autre. C'est la condition de la victoire contre Emmanuel Macron. Je verrai le 15 Éric Zemmour, je ne m'en cache pas, et je ne développerai aucun argument qui pourrait monter un camp contre l'autre. Je trouve que c'est idiot en s'opposant les uns aux autres parce qu'on est dans le même camp. Ce qui nous sépare, c'est une tonalité verbale parfois.
Gilbert Collard, joint par Alexandre Chauveau. Alors voilà pour le RN, Louis Dragnel. Et pour la droite, hein, déjà mal en point, ça se complique aussi.
Et oui, la droite classique, c'est le troisième dommage collatéral de ce sondage. Même Xavier Bertrand, pourtant le mieux placé de tous les candidats de la droite, arrive 4 points derrière Éric Zemmour. Et puis ce qui fait mal, c'est qu'en fait, Éric Zemmour dit vouloir parler aux anciens électeurs du RPR qui aujourd'hui sont déçus par ce qu'il appelle la droite molle. Et beaucoup de ces électeurs sont encore membres ou sympathisant des Républicains et donc apprécie beaucoup Éric Zemmour et son discours.
Merci pour cette analyse, Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1. Les Républicains, bah justement, on va en parler. Alexandre Chauveau, vous êtes devant le siège des LR où se tient un bureau politique qui doit définir les modalités du prochain congrès en décembre. Mais bon, on imagine que les échanges vont forcément tourner aussi autour de ce fameux sondage.
Oui, en tout cas, le sujet a accaparé toutes les discussions au sein du parti aujourd'hui. Xavier Bertrand a donné à seulement 13%, Valérie Pécresse à 11%, Michel Barnier à 7%. La droite cherche son champion, alors qu'Éric Zemmour n'en finit plus de monter dans les sondages. Alors, quelle stratégie adopter face à l'essayiste pas encore candidat? Nadine Morano botte en touche, mais ne cache pas sa satisfaction de voir ses idées occuper le champ politique.
Pour l'instant, il n'est pas candidat à l'élection présidentielle. Donc, il ne peut pas être bon, votre sondage. Éric Zemmour développe des thématiques que j'ai développées, d'ailleurs, en ce qui me concerne, depuis très longtemps. Je trouve que c'est bien, c'est intéressant.
Le problème, c'est que ce discours n'est pas partagé par tous en interne. Plusieurs cadres veulent instaurer un cordon sanitaire autour d'Éric Zemmour qui met en lumière le clivage chez les Républicains, tiraillé entre deux lignes, l'une centriste et l'autre plus à droite. La droite qui doit également faire face au sujet Xavier Bertrand. À une semaine de la clôture des candidatures pour participer au congrès du 4 décembre, le nordiste refuse toujours d'y aller et la question fait débat, y compris au sein de ses proches.
Alexandre Chauveau en direct du siège parisien des Républicains.
300 invités du très beau monde pour assister ce matin à la messe en hommage à Bernard Tapie.
Brigitte Macron, Nicolas Sarkozy, Lynn Renault ou Michel Drucker. Il y avait foule aussi à l'extérieur de l'église Saint-Germain-des-Prés à Paris. Et l'image qu'on retient, c'est le cercueil qui apparaît sur le parvis porté par des personnalités proches de Bernard Tapie. Écoutez le reportage de Zoé Pallier.
Après 2 heures de cérémonie, les portes de l'église s'ouvrent. Elles dévoilent Basile Boli, Jean-Pierre Papin, Claude Lelouch et Jean-Louis Borloo. La joue collée au cercueil, ils le mènent jusqu'au corbillard. Derrière suivent des centaines d'invités. De quoi consoler un peu le petit-fils de Bernard Tapie, Rodolphe, porté par cette ferveur.
Ça aide beaucoup. C'est un deuil qui est très compliqué. On a cette chance-là par rapport à d'autres familles qui vivent ça au quotidien et ça aide énormément pour le deuil.
Le corbillard s'éloigne, applaudi par une foule d'admirateurs. Francis est arrivé parmi les premiers sur le parvis de l'église.
Saluer sa mémoire d'entrepreneur. Il a été audacieux toute sa vie. Il a quand même sauvé beaucoup d'entreprises. Ah ouais, c'est un mec. N'est-ce pas insensible ?
Tapie, c'était un modèle, confient plusieurs fans. Parmi eux, des supporters de l'Olympique de Marseille, comme Saya, venu avec le maillot du club.
J'ai été bercé avec l'OM et avec le boss, hein, bien évidemment. Il n'y en a qu'un seul des boss, c'est Bernard. Hein, donc j'ai arrêté mon travail exprès, voilà, juste pour venir. C'est quelque chose que, un moment que je ne pouvais pas rater.
Des admirateurs qui nous promettent leur cœur sera à Marseille demain pour la suite des hommages à Bernard Tapie.
Et le cercueil sera convoyé dans un véhicule immatriculé 13. Il sera exposé en fin de journée au stade Vélodrome pour que les Marseillais puissent lui rendre un dernier hommage avant les obsèques vendredi en la cathédrale de la Major.
Honte, tristesse, douleur, c'est avec ces mots forts que le pape François a pour la première fois réagi aux terribles révélations du rapport Sauvé sur la pédocriminalité au sein de l'Église.
330 000 mineurs concernés, je désire exprimer aux victimes ma tristesse, ma douleur pour les traumatismes subis et aussi ma honte, notre honte, a dit le souverain pontife. L'onde de choc est telle qu'Emmanuel Macron a lui aussi réagi depuis la Slovénie, alors que normalement il ne commente pas l'actualité française lorsqu'il est à l'étranger. Écoutez le chef de l'État.
Je pense que c'est un sujet qui d'abord touche des vies. Derrière les chiffres et les situations édifiantes qui sont décrites, ce sont des destins brisés, des femmes et des hommes dont les vies ont été bousculées, parfois brisées. C'est d'abord à eux que j'ai une pensée. Ensuite, je souhaite que ce travail puisse se poursuivre dans la lucidité et l'apaisement. Notre société en a besoin. Il y a un besoin de vérité, de réparation. Mais je pense que ce devoir de vérité, nous devons le faire à tous égards. Et ça relève aussi d'une ambition qui est la nôtre plus largement de protéger nos enfants. Les violences qui sont faites aux enfants, que ce soit des violences psychiques, sexuelles, sont intolérables. Et je pense qu'une société se regarde et se juge aussi à sa capacité à les dénoncer, à les punir, à essayer de réparer les vies, mais plus encore à les prévenir.
Emmanuel Macron au micro de l'envoyé spécial d'Europe 1 en Slovénie, Jacques Serret. Noté par ailleurs qu'Emmanuel Macron va rencontrer à la mi-octobre le président américain Joe Biden. Il s'agira d'évoquer à nouveau la crise des sous-marins. La Haute Autorité de Santé publie ses recommandations sur la troisième dose de vaccin. Pour l'instant, pas de généralisation à tous les adultes. Elle suggère de l'étendre aux soignants, au personnel du transport sanitaire ainsi qu'à l'entourage des personnes immunodéprimées.
Une petite pause dans ce journal de 19h et on se retrouve avec Hélène Zelani dans un instant, direction la cour d'assises spéciale de Paris et commence à entendre les rescapés du Bataclan. A tout de suite dans Punchline.
Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari.
Et on se retrouve dans le journal de 19h avec Hélène Zelani. Hélène, des témoignages glaçants et le mot est faible. Au procès des attentats du 13 novembre, la cour d'assises spéciale a commencé aujourd'hui à entendre les survivants du Bataclan.
Oui, des rescapés qui tentent de raconter l'enfer de cette soirée. Le concert a commencé, les terroristes entrent dans la salle. Gladys Laffitte, vous suivez les débats pour Europe 1 à la barre. Les premiers spectateurs à les avoir vus racontent.
Il est 21h47 quand Clarisse entend un son assourdissant qui déchire le silence de la rue. Elle est dans les vestiaires, regarde le videur. Je ne vois pas ce qu'il voit, mais je comprends. La mort, elle est là et il la voit. Trois terroristes s'engouffrent dans le Bataclan, tirent en rafale sur le public. Dans la coursive à droite de l'entrée, Irmine entend une voix juvénile et aiguë crier « La France n'a rien à faire en Syrie ». Elle tombe au sol, les assaillants rechargent leurs armes, un homme hurle de s'enfuir. Irmine s'échappe sans arriver à porter le corps de son ami qui a reçu une balle dans la tête. Le rythme des coups de feu ralentit. Jean-Marc, lui, est face au sol, à l'entrée de la fosse. Il voit le pied d'un assaillant. Les douilles tombent sur ma tête. Une personne est prise pour cible parce que son portable sonne, raconte-t-il, la voix basse et la gorge nouée. Il a fait le mort jusqu'à l'arrivée de la police. Aujourd'hui, il est en colère contre les assaillants, contre son pays et aussi contre lui-même pour avoir survécu.
Gladys Laffitte aux Assises spéciales de Paris pour Europe 1. Les témoignages des parties civiles du Bataclan doivent durer 4 semaines.
Si on vous dit revenu d'engagement, est-ce que cela vous parle ?
Il s'agit de cette promesse d'Emmanuel Macron en juillet dernier, offrir un revenu à tous les jeunes sans emploi ni formation. Sauf Emmanuel Duteil que les ambitions initiales vont être sérieusement revues à la baisse.
Oui, hein, la fin du « quoi qu'il en coûte » est passée par là, Bercy. On estime qu'avec la forte reprise et la pénurie de main-d'œuvre, un tel revenu mensuel ne doit concerner que ceux qui sont très éloignés de l'emploi. Selon nos informations, 500 à 600 000 jeunes de moins de 26 ans devraient être concernés. C'est moitié moins que ce que l'on imaginait au démarrage. Il n'est plus prévu d'intégrer à ce dispositif les travailleurs précaires. Et puis surtout, ce revenu va s'appuyer sur ce qui existe déjà et notamment sur la garantie jeune. C'est un dispositif géré par les missions locales qui offre un revenu de 500 euros par mois à des jeunes en échange d'un programme de retour à l'emploi. Ça va être mixé avec d'autres systèmes d'aide de retour à l'emploi qui existent eux aussi déjà. L'idée, c'est de s'appuyer sur ce qui marche, assume-t-on du côté du ministère du Travail, où l'on a du mal à cacher un certain énervement de voir ce revenu raboté par rapport à l'idée initiale.
Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1. L'économie, c'est aussi la flambée des marchés du gaz en Europe. Nouveau record historique aujourd'hui. En 6 mois, les prix ont été multipliés par 8. Selon le président russe Poutine, les erreurs des Européens sont à l'origine de cette crise. La Russie, qui, on le rappelle, fournit un tiers du gaz de l'Europe.
Et vous avez reconnu cette musique après une longue attente. Ça y est, 007 est de retour, Alain.
Eh oui, James Bond, incarné par Daniel Craig pour la dernière fois, déboule sur plus de 800 écrans en France avec Mourir peut attendre. Les patrons de salles espèrent faire le plein. C'est d'ailleurs plutôt bien parti. Deuxième meilleur lancement de l'année derrière Dune. Et les spectateurs, alors est-ce qu'ils ont aimé un peu, beaucoup, passionnément? Océane Théard leur a tendu son micro à la sortie d'un cinéma parisien.
Sans rien dévoiler, je parle pour moi, je suis pas bien là en fait. Voilà, je suis pas bien. C'est un très bon film, mais c'est le choc quand même. Ouais. Pour moi, c'est toute une époque et je trouve que ce Daniel Craig, au début, j'ai été assez dubitatif sur son rôle et finalement, je l'ai complètement adopté et je trouve que c'est un des meilleurs James Bond. C'est James.
C'est vrai que l'ancien James Bond était plus peut-être l'icône intouchable et intuable et là, plus personnel, plus direct, on le sent plus affecté à chaque fois dans les films. Et c'est ça qui a été intéressant, je trouve, avec ce personnage-là.
Il est touchant, en fait. Il est bien, il est complet. C'est un beau James Bond.
Voilà donc pour ce James Bond. Merci beaucoup, Hélène. On va faire un petit mois un météo avec Marlène Duret. Marlène, la pluie peut aussi attendre. No time for rain, c'est ça? Il y en a très peu demain.
Voilà, et moi, je vais rebondir donc sur la météo et ces conditions anticycloniques en fait, qui vont s'installer de plus en plus progressivement. La perturbation qui va chercher à entrer dans le pays par le nord-ouest sera fatalement atténuée. Donc entre la Bretagne, la Normandie et les rivages des Hauts-de-France, le ciel va rester chargé avec quelques gouttes possibles. On aura aussi des résidus d'humidité sous forme de nuages dans les régions du Grand Est, en Bourgogne-Franche-Comté, Auvergne, dans le Lyonnais, en Haute-Savoie, avec quelques pluies là aussi pour la Lorraine, l'Alsace et la Franche-Comté sous un ciel gris. Mais c'est temporaire puisque les éclaircies prendront le dessus en cours d'après-midi. Et puis quelques grisailles pour le reste du pays le matin qui vont tout simplement se résorber en cours de journée. Sauf dans le sud, là c'est dès le matin, dès l'aube, dans les régions du sud-ouest et en Méditerranée. Grand soleil, du Mistral et de la Tramontane quand même à signaler. Quant aux températures, les maximales 15 à 18 degrés dans les régions du nord-est et du centre-est avec 15 à Mulhouse ou encore 16 degrés à Lyon, 17 à 21 pour le reste du pays, jusqu'à 22 à 24 degrés de la Côte d'Azur à la Corse, quelques températures, 18 à Lille, Paris, Rouen, Limoges, 19-20 dans le sud-ouest et 23 pour Toulon.
Merci beaucoup Marlène Duret pour ces températures. Merci Hélène Zanini, on se retrouve demain à 19h pour le journal, vous serez là ? Merci beaucoup. On se retrouve dans un instant dans Punchline. On reviendra sur les déclarations d'Éric Zemmour. Il était notre invité tout à l'heure, entre 18h et 19h. Il évoque notamment ce second tour de la présidentielle pour lequel il est désormais qualifié d'après les sondages. A tout de suite.
Europe 1. Punchline. Laurence Ferrari.
On se retrouve dans Punchline sur Europe 1 avec nos débatteurs. Nous sommes avec Alexandre Devecchio, toujours du Figaro. Merci d'être resté, cher Alexandre. Nous sommes avec Jeannette Bougrabe, essayiste. Bonsoir Jeannette. Amine El-Khatmi, président du Printemps Républicain. Bonsoir Amine.
Bonsoir Laurence.
Plaisir de vous avoir sur notre plateau. Et Louis de Ragnel, chef du service politique d'Europe 1.
Bonsoir Laurence.
L'événement, c'était bien sûr l'avenue d'Éric Zemmour il y a quelques instants dans Punchline. Notamment à la lueur de ce sondage, dernier sondage, qui le donne pour la première fois qualifié pour le second tour face à Emmanuel Macron. Il devance désormais et Marine Le Pen et Xavier Bertrand et évidemment dans l'ordre Jean-Luc Mélenchon. C'est un coup de tonnerre pour vous, Louis de Ragnel, dans l'échiquier politique aujourd'hui. On va écouter dans un instant Éric Zemmour et Marine Le Pen. Mais d'abord, ça y est, ça tremble. L'édifice politique est en train de trembler dans tous les sens.
Alors, ça ne reste qu'un sondage, mais ça produit toujours un effet de blast incroyable dans les états-majors politiques. Parce que comme on ne sait absolument rien de ce que sera cette campagne présidentielle, tous les politiques aujourd'hui n'ont jamais été autant consommateurs de sondages et donc ne regardent que ça. Donc l'effet déceptif, il est énorme au Rassemblement national et chez les Républicains. Mais il y a une nouveauté, et on en a parlé tout à l'heure dans le journal, c'est pour Emmanuel Macron, parce que ça change complètement la donne si Emmanuel Macron se retrouve au deuxième tour face à Éric Zemmour. Parce qu'aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, dans les sondages, il se retrouvait face à Marine Le Pen, ça l'arrangeait beaucoup, il était persuadé qu'il pouvait la battre assez facilement. Et là, si vous voulez, face à Éric Zemmour, on voit bien qu'il a énormément de mal à savoir par quelle prise le prendre pour essayer de le retourner, pour essayer de l'attaquer. Et on voit bien, dimanche dernier, il y avait les universités de rentrée de La République En Marche. Tous les ténors de La République En Marche ont essayé d'attaquer Éric Zemmour. Et honnêtement, ça a fait pchit. Enfin, c'était que des attaques qui ne produisent quasiment aucun effet. Mais dans l'immédiat, voilà, c'est Marine Le Pen qui est très fortement impactée. Les Républicains qui ne finissent plus de se perdre pour la désignation de leur candidat. Et puis avec aussi, au sein des Républicains, l'immense problème, c'est la décorrélation qui entre entre les ténors des Républicains et les électeurs et les militants LR qui, globalement, eux, sont très sensibles au discours d'Éric Zemmour et qui entendent, en fait, la direction, une partie de la direction des Républicains expliquer qu'Éric Zemmour, c'est le diable, que les idées d'Éric Zemmour n'ont rien à voir avec celles des Républicains, alors que pourtant, voilà, les militants, les sympathisants soutiennent ces mesures. Il ne faut pas oublier qu'un certain nombre de ces mesures étaient dans le programme du RPR il y a une vingtaine d'années. Et donc, pour beaucoup de gens, en fait, si vous voulez, Éric Zemmour, c'est une catharsis, ça les libère, en fait. Mmh. Et ça leur fait du bien.
Amine El Khatmi, un mot de ce sondage, évidemment, qui provoque un coup de tonnerre dans les états-majors politiques.
Oui, il faut être de mauvaise foi pour balayer ça ou dire que c'est un non-événement. Oui. C'est un événement. Et je rejoins ce qu'a dit Louis, c'est à ce point un événement qu'il fait changer de stratégie tous ceux qui sont concernés. Effectivement, au Rassemblement national, visiblement, la consigne, c'était « on dit rien selon la formule Marine Le Pen, c'est le calme des vieilles troupes, on n'attaque pas ». Bim, là, maintenant, tout le monde attaque. À La République En Marche, c'était pareil, on laisse tranquille. Et on a vu, effectivement, à Avignon, les propos qui n'était pas d'une grande finesse. Hein. Oui. Et M. Borrello, franchement...
Il a traité de virus, peste brune.
De peste brune. C'est les arguments qu'on utilise contre le Front National à l'époque et le Rassemblement National depuis 30 ou 40 ans. S'ils avaient démontré leur efficacité, ça se saurait. Pour le coup, ils ne sont absolument pas efficaces.
Jeannette Bougrabe, Éric Zemmour au second tour face à Emmanuel Macron, c'est désormais une hypothèse plausible.
D'abord, c'est un institut de sondage. Pour le moment, les courbes, ce sont pas les autres instituts n'ont pas ces chiffres-là. Donc, je pense que si déjà tous les états-majors paniquent, ça prouve bien qu'ils ne sont pas très certains ou de leur conviction ou de leur force. Je pense que le vrai sujet aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas réellement d'autres candidats déclarés. Vous rappelez, Charles-Louis, que chez les Républicains et les autres candidats qui ont quitté les Républicains, on ne sait toujours pas qui va être candidat. Valérie Pécresse a annoncé qu'elle allait déposer 250 parrainages. Bon, il y a une candidate au Parti Socialiste, mais elle va peut-être rejoindre l'Europe Écologie Les Verts. Donc je pense qu'aujourd'hui, le seul qui effectivement sort un peu du lot, c'est lui, mais ça ne reste qu'un sondage. Mm-hmm. Et qu'en réalité, on l'a bien vu dans les campagnes précédentes, le moment décisif, c'est février. Donc on est au mois d'octobre. Bon,
Juste écouter Éric Zemmour, si vous le voulez bien. Je vous passe la parole à Alexandre Devecchio. Il évoque évidemment Marine Le Pen. Et on va entendre juste après Marine Le Pen qu'elle se dit sereine malgré ses sondages qui lui sont défavorables.
Je n'ai rien contre Marine Le Pen. Je n'ai rien contre elle personnellement. Je pense simplement qu'elle ne peut pas gagner et qu'elle a fait les mauvais choix stratégiques et tactiques. Voilà, et qu'elle le paye. C'est tout, mais vous savez, on a le droit d'être en désaccord avec des gens qu'on ne déteste pas. Il n'y a rien, je n'ai pas d'hostilité à l'égard de Marine Le Pen. Et je ne lui demande pas de se retirer. Je ne la bats pas de mon mépris comme elle quand elle disait que j'étais la Taubira de la droite nationale. Voyez, non, je comprends, elle est courageuse, elle est valeureuse. Moi, j'ai vraiment rien contre elle.
Je ne suis pas chamboulée, je suis calme, mais c'est aussi parce que j'ai beaucoup d'expérience. Vous savez, j'engage ma troisième présidentielle, je suis moi-même candidate, mais j'en ai fait sept des présidentielles. Donc je sais très bien que quand on est éloigné de l'élection présidentielle, comme nous le sommes encore aujourd'hui, les différentes études d'opinion, en réalité, ne mesurent pas ce qui peut se passer dans le pays dans les mois qui viennent. Dans notre famille de pensée, un peu comme on l'a vu d'ailleurs pour les écologistes, il y a une forme de compétition entre la radicalité et le réalisme. Bon, bien moi j'assume d'être la tenante du réalisme. Parce que le réalisme, croyez-moi, c'est peut-être moins sexy. Peut-être qu'il y a moins cette ivresse, peut-être, qui est celle de la radicalité. Mais c'est redoutablement plus efficace pour régler les problèmes des Français. Alors moi, c'est ce que je veux faire, régler les problèmes des Français.
Voilà, Marine Le Pen, on est en 2021, Alexandre Devecchio, et elle vante, elle, ses qualités, le réalisme par rapport à la radicalité incarnée par Éric Zemmour. Les choses ont changé, hein.
Ouais. Moi, ce qui m'a intéressé, c'est presque la première partie de son intervention, quand elle dit « j'ai beaucoup d'expérience, c'est ma troisième campagne électorale ». Je pense qu'elle présente ça comme une qualité. Or, c'est, je crois, son principal défaut. Elle est usée, Marine Le Pen, et elle est victime, à son tour, du dégagisme politique. Donc, oui, il lui reste à vanter son supposé réalisme, mais la vérité, c'est qu'elle a échoué par deux fois, qu'elle a été au second tour, qu'elle a été médiocre dans le débat d'entre deux tours, et qu'aujourd'hui, il y a une révolte des classes moyennes et populaires qui se sentent dépossédées sur le plan économique, mais aussi sur le plan culturel, identitaire. Ça se passe un peu dans tous les pays du monde, et ils cherchent des candidats nouveaux qu'on a appelés populistes. Aux États-Unis, c'est Trump. En Grande-Bretagne, ça a été Boris Johnson. Et il est probable qu'en France, aujourd'hui, ce soit Éric Zemmour et que Marine Le Pen fasse partie du vieux système politique. Et c'est qu'un seul sondage, mais généralement, quand les courbes se croisent, elles ne se recroisent jamais. Ce que vous dites,
il n'y a pas d'inversion de la tendance.
Alors, c'est une élection pas comme les autres, sans doute pour le moment. Donc, il faut préjuger de rien. Il peut encore y avoir beaucoup d'événements, mais c'est quand même, à mon avis, un coup très dur pour Marine Le Pen.
Jeannette Bougrabe.
Oui, moi je suis tout à fait d'accord. C'est clair qu'on ne peut pas présenter nécessairement tous ces échecs comme des qualités ou comme un atout majeur en réalité. Et ce que je trouve un peu dommage, c'est que c'est la fille d'eux en fait. C'est du népotisme, donc ce n'est pas plus légitime d'être cette qualité-là. Et je trouve qu'elle a fait cette campagne où elle a fait la campagne de papa. Et donc ça, ce n'est pas la méritocratie. Ça, ce n'est pas le système dont on veut. On a envie d'avoir quand même des gens un peu nouveaux. Donc je pense que là-dessus, et je crois que les militants du Rassemblement national, on partage sans doute la même opinion qu'Éric Zemmour, elle ne peut pas gagner. Voilà.
Et donc, parce qu'elle porte ce nom-là ou parce qu'elle a fait preuve d'incompétence ?
Je pense que quand on verrouille un parti pour s'assurer que ses enfants ou ses proches aient un parti, c'est quand même un peu délicat dans une démocratie. Enfin, moi, je reste... C'est peut-être sévère, mais c'est quand même une réalité. Moi, je suis contre cette espèce de reproduction sociale pour casser le système. Et de l'autre, je pense qu'elle se fait elle perd des points. On l'a vu au régional, elle perd des points. Et elle travaille peut-être pas suffisamment aussi. Donc, c'est aussi ça qu'on doit se dire. Donc.
Louis Dragnel, un tout petit mot.
Non, moi, c'était juste pour inciter un peu plus sur Emmanuel Macron, ce que ça change pour lui, parce qu'on disait, voilà, ça change à peu près tout. Moi, ce que je trouve intéressant, c'est que jusqu'à aujourd'hui, l'entourage d'Emmanuel Macron rigolait un peu en voyant Éric Zemmour. Et maintenant, ce qui a changé, c'est qu'ils observent, en fait, que Éric Zemmour a en tête quelque chose d'assez... On voit qu'il est assez méthodique, assez préparé. Et d'ailleurs, il vous l'a dit, c'est trop tôt, j'ai aucun intérêt à déclarer ma candidature.
Il a été très franc, il n'a aucun intérêt à déclarer sa candidature. Là, ça monte.
C'est-à-dire que tout ça est très clair dans sa tête. Et en fait, ils font une comparaison. Ils disent, en fait, dans la méthode, pas sur le fond, la tactique, c'est exactement ce que Macron a fait en 2016.
Il a tout de suite pris pour modèle Emmanuel Macron.
Être candidat sans lettre, préempter un certain nombre de sujets, être transgressif, libérer aussi les Français sur un certain nombre de thèmes qui les exaspèrent. Et du coup, en fait, ça les inquiète beaucoup. Et la deuxième chose, c'est que quand ils écoutent les arguments de gens qui contestent ou qui discréditent la candidature d'Éric Zemmour, ils disent c'est exactement les mêmes mots. On ne fait pas une élection dans les sondages.
Bulle
médiatique et tout ça. Bon, après, ça n'est qu'un sondage. Ouais. Ce qu'a rappelé Jeannette Bougrabe est très juste. Donc, on verra si ça se transforme en essai politique à la présidentielle.
Petite pause. Vous restez avec nous, Louis Dragnel, Alexandre Devecchio, Amine El Khatmi, Jeannette Bougrabe. On entendra Éric Zemmour évoquer l'immigration. À tout de suite.
Punchline sur Europe 1, Laurence Ferrari.
Et dans Punchline, on revient sur les propos d'Éric Zemmour tout à l'heure dans Punchline avec Alexandre Devecchio, Jeannette Bougrabe, Louis Dragnel, Amine El Khatmi. On va évoquer la force qu'a Éric Zemmour pour imposer ses thèmes dans la campagne, même s'il n'est pas encore candidat. On va évoquer tout dans un instant un sujet de société. Mais d'abord, écoutons-le sur l'immigration. Il dit aujourd'hui, tous les candidats ont repris ce thème de l'immigration. Écoutons-le.
Vous avez vu, tous les candidats me courent après. Maintenant, Mme Pécresse ne parle plus que d'immigration. Elle n'en a pas parlé pendant toute sa carrière. Marine Le Pen, qui voulait justement ne plus en parler, maintenant en reparle. Donc Barnier, j'espère qu'on en parlera, lui aussi, il ne parle que de ça. Donc voilà, je pense qu'au moins, j'ai, et j'en suis vraiment heureux parce que je pense qu'il en va de la survie de la France, j'ai imposé ce thème-là dans la présidentielle, ce qui n'était jamais fait dans les présidentielles précédentes.
Est-ce que c'est vrai ça, Jeannette Bougrabe ?
Parce que Nicolas Sarkozy avait abordé notamment les questions d'immigration choisie, notamment en s'inspirant du modèle canadien, parce qu'en fait, on a une manière de parler. Éric Zemmour a une manière de parler d'immigration qui est quand même, moi, parfois me choque, mais il en parlerait avec une sémantique un peu différente. Les gens comprendraient très bien que, par exemple, l'immigration du travail, quand vous allez en Allemagne, quand ils ont manqué d'informaticiens, ils sont allés chercher en Inde, etc. Donc, au Canada, vous ne pouvez pas rentrer sur le territoire national si vous ne justifiez pas de revenus, si vous ne parlez pas la langue, vous avez des points. Et voilà, donc, ce genre de choses, on peut les entendre. Et quand Nicolas Sarkozy en avait parlé. Mmh. Il a été injurié par toute une partie de la classe politique en disant...
Le ministère d'identité nationale.
Oui, mais il en parlait, de parler sur ces questions de regroupement, il en parlait, c'est pas le problème. Mais il faut reconnaître qu'il bouleverse en réalité, et ça, c'est à son crédit, hein, on peut le regretter ou pas, ces questions-là. Et je voulais juste pour dire, par exemple, la manière dont le président Macron lui-même s'est positionné. Par exemple, sur la question des visas. Les visas, en disant on va réduire les visas pour l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, ça vient à un moment très particulier. Ses propos sur l'Algérie viennent à un moment très particulier. On voit bien que c'est une réaction par rapport aux propos d'Éric Zemmour.
Amine El Khatmi.
Oui, enfin, la technique qui consiste à imposer ses thèmes et forcer les autres à se positionner autour, elle est vieille comme le monde, il n'a rien inventé. Effectivement, Nicolas Sarkozy était passé maître en la matière.
Mais
j'allais dire, et d'une certaine manière, Ségolène Royal avait fait la même chose à gauche avec ses sorties sur l'ordre juste, sur la sécurité,
etc. Mais ça rencontrait pas d'écho dans la population autant qu'aujourd'hui, peut-être.
Oui, mais la classe politique elle-même a évolué. Regardez aujourd'hui Arnaud Montebourg, ce qu'il peut dire, il est pourtant socialiste, il vient de la gauche, ce qu'il peut raconter sur l'immigration, alors qu'il se fait traiter de facho par les autres, mais il d'une certaine manière, il est lucide. La seule différence peut-être entre Zemmour et Macron dans la disruption, dans la comparaison qui est faible, c'est une différence qui est quand même majeure, c'est que Éric Zemmour est la personnalité la plus détestée des Français, ce qui n'était pas le cas d'Emmanuel Macron à ce moment-là. Et oui, pardon, vous levez les yeux au ciel, mais c'était...
Non, mon voisin, je parle
de mon voisin.
Vous ne le voyez pourtant pas, mais...
Non, mais c'est la réalité.
Le sondage qui dit que c'est la plus détestée des Français, n'exagérons
oui,
rien.
Oui, si, si.
Les personnalités.
Oui, c'est un classement et il est en tête.
Clivante, alors, ça veut dire
et dernier sujet, Éric Zemmour ne heurtait pas la population comme le fait Éric Zemmour. Emmanuel Macron ne heurtait pas la population. Je suis désolé, les propos qu'il a tenus...
C'était le genre idéal.
Il y a quelques minutes, à ce même micro, sur les enfants élevés par des femmes. Il y a des millions de mères qui élèvent leurs enfants seuls. Les propos qu'il peut tenir sur les homosexuels, sur... Bon, bref, je ne vais pas faire la longue liste. À un moment, si vous voulez passer le cap de candidat qui fait du bruit à candidat qui peut rassembler une majorité, il va falloir parler autrement.
Quand il était ministre de l'Intérieur, quand il parle de ces sujets-là, quand il va à la Courneuve, quand il y a eu la mort de ce petit garçon qui est mort d'une balle perdue alors qu'il nettoyait la voiture de son père pour la fête des pères et qui parle de Karcher, quand il va sur la dalle, il a été entendu et il s'est fait élire sur ce programme-là. Donc, il ne faut pas penser que ces sujets-là n'ont pas été abordés, n'étaient pas entendus, n'étaient pas, en tout cas, souhaités par les Françaises et les Français, puisqu'en réalité, il a quand même été élu en étant l'ancien ministre de l'Intérieur en 2007.
Oui. Louis Dragnel et Alexandre.
Et Jeannette Bougrabe a parfaitement raison, mais le problème, en fait, aujourd'hui, c'est que les Français qui ont cru là-dedans, dans ses idées, dans ses projets, dans ses idées très fortes qui étaient portées par Nicolas Sarkozy, ont vu que les résultats ne suivaient pas. Et donc, Éric Zemmour est aussi une sorte de miroir d'une partie de l'échec de la droite sur ces questions-là. Et donc ça fait forcément aussi très mal à la droite.
Il ne sera pas mieux parce qu'il y a des règles internationales, des conventions.
Après tout est en train d'évoluer, donc on verra. Et après, ce que je trouve intéressant, c'est par rapport justement à ces électeurs de droite qui attendaient énormément et qui ont été assez déçus sur les questions régalienne. Éric Zemmour essaye d'incarner celui qui veut remettre de l'ordre, en fait, de remettre le pays à l'endroit. Il y a plein de gens qui considèrent que aujourd'hui là, tout part à volo, il y a plus d'autorité, plus de respect, plus rien. Et lui, en fait, à travers des messages très simples, des idées hyper simples sur l'immigration, la sécurité, même sur les questions LGBT que vous évoquiez à l'instant, lui, il apporte une réponse. D'ailleurs, il part pas dans des détails. Et je trouve que c'est de ce point de vue-là, c'est intéressant. Et ensuite, si on revient juste sur les questions d'immigration, justement vis-à-vis des électeurs de droite, il tord le coup, en fait, à des mythes justement sur la question de l'acceptation de l'immigration, des choses qui faisaient que la droite acceptait l'immigration parce qu'il y avait, par exemple, dès qu'on parlait d'immigration, on parlait d'assimilation de l'autre côté. Quand on parlait des étudiants étrangers, on expliquait que c'était pour le rayonnement de la France. Et lui, en fait, il fait tout voler en éclats. Il explique, entre les lignes, que sur l'assimilation, en gros, ça n'a jamais existé. Pourquoi ? Parce que la France n'a pas été capable de le faire. Et si on suit sa logique, les immigrés qui ont réussi à s'en sortir ne le doivent qu'à eux-mêmes, à leur talent, à leur pugnacité,
cité. Et sur les étudiants étrangers, il fait aussi voler en éclats le mythe, parce que c'est ce qui est en plus factuellement vrai. Tout le monde pense qu'en fait, on forme l'élite de la Terre entière. C'est pas que des étudiants de Harvard qui composent les 90 000 étudiants étrangers. Et ce qui est vrai, c'est que, et ça, beaucoup de gens à droite le savent,
c'est que
parmi les 90 000, il y a énormément d'étudiants étrangers qui ont 45 ans, qui viennent avec 4 enfants pour étudier à la Sorbonne. Absolument.
Mais bien sûr,
mais regardez le rapport. Il a été mis en ligne sur le site du ministère de l'Intérieur.
À chaque fois.
Mais parce que c'est vrai. Regardez, il est en ligne depuis une semaine sur le site du ministère de l'Intérieur.
Je pense que Louis a raison. Alexandre Devecchio.
Moi, je trouvais intéressant ce qui se disait sur le langage d'Éric Zemmour. Parce que moi, je crois au contraire que c'est un énorme point fort qu'il a de dire les choses de manière brute et juste. On comprend ce qu'il dit, contrairement à d'autres politiques. Et je crois qu'on en est là aussi. Parce que d'autres qui font des propositions presque similaires, hein, la proposition du référendum sur l'immigration, c'est Xavier Bertrand qui l'a fait en premier, en fait, avant Éric Zemmour. Mais personne ne l'a entendu, parce que personne ne l'a cru. Parce que ça fait des années qu'il y a des politiques qui répètent des choses et qui ne les font pas. Et puis, parce que c'est toujours enrobé dans un politiquement correct. Alors certes, en réalité, on dit Éric Zemmour a des paroles parfois blessantes, mais je crois que les gens dans la vraie vie, dans les dîners de famille, ils s'engueulent, ils ont des paroles parfois blessantes, et une partie des Français sont heureux qu'on ne les considère pas comme des enfants, comme des petites choses qui seraient offensées. Ils ont un cerveau pour comprendre, et je crois que la brutalité d'Éric Zemmour, peut-être qu'elle clive, peut-être qu'elle fait peur à certains, mais d'autres se disent, voilà quelqu'un qui est honnête et en plus qui n'a pas varié dans son discours. Je crois que, voilà, et c'était aussi en partie la force de Donald Trump, où on a voulu le faire passer pour un fou. Je crois qu'il n'était pas fou, qu'il parlait un langage que beaucoup d'Américains comprenaient et partageaient.
D'accord, mais là, il veut faire une alliance entre les classes populaires et ce qu'il appelle la bourgeoisie patriote.
Mais il le fait.
Il essaye de faire le pont entre ces deux électorats.
Oui, mais il est très Éric Zemmour. Il a aussi une dimension un peu intello. Parfois, les débats sont élevés. Il a des références culturelles. Donc, et là encore, je crois que... Et c'était une force de Jean-Marie Le Pen. Alors, je ne pense pas que Éric Zemmour et Jean-Marie Le Pen soient comparables, mais Jean-Marie Le Pen, qui s'est adressé aux classes populaire, employait l'imparfait du subjonctif. Donc, c'est Éric Zemmour, c'est ça. C'est à la fois un côté transgressif et brutal, on comprend ce qu'il dit, et à la fois télo. Quelqu'un qui élève la population, qui ne prend pas les Français pour des imbéciles.
Je n'avais pas vraiment le sentiment que... Enfin, l'interview était très dense, et sa force, effectivement, c'est de centrer sur des problèmes, mais là, c'était quand même... C'était avec le dos de la cuillère. C'est-à-dire en disant, alors les Maghrébins et les Africains, on n'en veut plus, on veut du Polonais. Enfin, ouais. Comment c'est possible aujourd'hui de parler ainsi? Enfin, vous savez d'où je viens. Donc, en plus, je m'appelle Jeannette, donc je devrais lui plaire. Donc,
Que vous lui plaisez, Jeannette.
Non, pas du tout.
Mais pourquoi vous lui prêtez?
Non, parce que c'est...
On entend ce qu'on veut entendre, parce que moi, je suis avec Zemmour depuis des années. Il dit aussi que les gens qui sont assimilés, justement, qui aiment la France, qui travaillent, sont les bienvenus.
Juste, il faut savoir une chose, et ce qu'on avait quand on travaillait sur ces sujets-là, c'est que le vrai problème, c'est que la France n'est pas attractive. La France, en réalité, les brillants étudiants, en fait, la France devrait s'en rendre compte, c'est que les brillants étudiants algériens, marocains ou d'autres, ils préfèrent aller au Canada, aux États-Unis, etc.
Mais du coup, on n'a pas les brillants.
Non, c'est pas ça. C'est que la manière dont on parle de... Moi, mes parents sont venus contre le Golfe, ils sont pas venus... La France ne les a pas accueillis. Ils sont venus parce que des militaires ont désobéi. Donc, qu'est-ce que leur était notre vie, en fait? Et je trouve que parler ainsi, moi, ça me blesse. Voilà.
Allez, on fait une petite pause. On se retrouve tous les quatre dans un instant. On écoutera Éric Zemmour évoquer le sujet des enfants LGBT, notamment d'une circulaire produite par l'Éducation nationale pour accueillir les enfants qui hésitent entre leur genre féminin ou genre masculin. Tout de suite.
18h-20h sur Europe 1, Punchline, Laurence Ferrari.
On se retrouve sur Europe 1 avec nos débatteurs Jeannette Beaugrabe, Louis de Ragnel, Alexandre Devecchio, Amine El-Khatmi. On va écouter ce qu'a dit Éric Zemmour à propos de cette circulaire du ministère de l'Éducation nationale sur la meilleure prise en compte des questions relatives à l'identité de genre, c'est-à-dire masculin-féminin, en milieu scolaire. Écoutez les mots employés par Éric Zemmour.
Les professeurs doivent se soumettre à cette nouvelle idéologie. Par exemple, si un enfant, je le répète, vient dire « Ah ben non, je ne suis pas une fille, je suis un garçon », on doit le prendre en cause, on doit ne plus l'appeler elle, on doit admettre son nouveau prénom. Et puis quoi encore? Vous savez, c'est vraiment criminel. La vérité, c'est que qu'est-ce qu'on va faire après? On va bloquer par des piqûres, on va bloquer la puberté de ses enfants. parce que pour qu'ils décident après quel est leur genre. Mais vous rendez compte, on est vraiment dans le docteur Mengele, quoi. C'est des expériences absolument scandaleuses comme
vous
aux États-Unis.
Vous comparez Jean-Michel Blanquer au docteur Mengele.
Je compare le fait.
Vous rendez compte de la gravité de ce que vous dites.
Ah mais tout à fait, je m'en rends compte très bien. Je compare simplement les expériences qui sont faites sur des enfants. Aux États-Unis, il y a des cliniques de transition de genre pour des enfants de 3 ans. Vous appelez ça comment, vous ? Moi, j'appelle ça des expériences du docteur Mengele.
Ce n'est pas le cas en France.
Non, ce n'est pas le cas en France. Mais Monsieur Blanquer adoube ce genre d'expérience.
Jeannette Bougrappe, votre réaction sur ces mots, les mots employés, ils vous choquent ?
Oui, ils me choquent parce que je pense que beaucoup d'enfants ne vont pas très bien à l'école. Donc, je pense que la circulaire est maladroite. Je ne pensais pas que j'adhère à l'idée. Je pense que déjà, l'éducation nationale, si on apprenait les fondamentaux, ce serait déjà bien. Ouais. Qu'on lutte contre le harcèlement moral à l'école, ce serait déjà bien. Mais les mots, à chaque fois, d'Éric Zemmour sont blessants. Voilà. C'est ça, moi, qui me fait le plus de mal en tant que mère, c'est d'entendre ce genre de propos. Voilà. Mais c'est vraiment... Je trouve que c'est... que la circulaire soit maladroite et que la paupérisation de l'éducation nationale, vu nos résultats, nos piètres résultats dans le classement PISA, je pense que les professeurs ont suffisamment de difficultés comme ça et qu'ils ont souvent l'humanité pour, quand il y a des problèmes ou quand il y a des difficultés ou quand les enfants ont des questionnements sur leur identité, pour qu'ils puissent le gérer. Et l'administration, comme d'habitude, produit une circulaire.
Voilà. Alors, Aminel Katmi peut-être, et après Alexandre Devecchio.
Oui, je souscris à ce que dit Jeannette Bougrabe. Je ne comprends pas, je ne vois pas l'intérêt de comparaison aussi outrancière, de référence aussi odieuse quand on prétend vouloir participer au débat public, quand on prétend vouloir jouer un rôle dans son pays, aller chercher, convoquer comme ça des références qui n'ont pas de sens. Évidemment, s'il y a des dérives, il faut les traiter. Et en même temps, lorsqu'il dit oui, il ne faut pas qu'il y ait de la propagande LGBT dans les écoles. Mais personne ne fait de la propagande LGBT dans les écoles. Il s'agit de sensibiliser les enfants à un fléau qui s'appelle l'homophobie, qui fait qu'il y a des gamins en mal-être, qui fait qu'il y a des gamins qui se suicident. Voilà, chaque semaine dans notre pays, il y a un gamin ou une gamine qui se suicide parce qu'il est homosexuel ou lesbienne. Et parce qu'ils se sont rejetés, soit par sa famille. Allez lire ce qu'écrivent des associations comme Le Refuge. Bref, il y a des sujets et que l'école s'en saisisse, comme pour le racisme, l'antisémitisme, l'égalité femmes-hommes, c'est important. Voilà, lui, il rejette ça en bloc, je trouve ça navrant.
Alexandre Devecchio.
La comparaison est sans doute outrancière, mais ça va permettre de parler du sujet qui, à mon avis, est un sujet grave. Et je pense que Jeannette Bougrabe, qui est de bonne foi, Amine, je suis moins sûr, se trompe quand elle dit que c'est une histoire de discrimination, que c'est pour lutter contre le harcèlement scolaire ou je ne sais quoi. La vérité, c'est qu'il y a quand même des lobbies dans ce pays, y compris des lobbies LGBT, que la question trans, y compris des gens de gauche, en parlent, et que dans certains pays, ces lobbies ont gain de cause, à l'école ou ailleurs, et qu'effectivement, la question va se poser, sans doute, dans les années à venir, des enfants qu'on va peut-être pas opérer dès le plus jeune âge, mais enfin...
Mais non, c'est interdit en France.
Pour
arrêtez.
Le moment, mais vous savez, il y a beaucoup de choses qui ont été interdites en France
oui,
et qui ont été faites par la suite. On a vu dans des émissions de chaînes concurrentes...
Non,
on a vu dans des émissions de chaînes concurrentes, je suis désolé, des enfants exposés comme des animaux de foire.
Ça c'est
beaucoup
autre chose.
Mais ça participe du même chose. Il y a un débat
c'est
de fond qui est...
La responsabilité des parents est énorme.
Il y a des débats qui... Certains avancent leur pion... parce qu'ils ont une autre vision de la société. Ils ne considèrent pas qu'un enfant, c'est un enfant. Moi, la transsexualité, quand on est un adulte majeur vacciné, OK, pas de souci. Quand c'est un enfant, ça pose problème. Et clairement, il y a des associations qui avancent dans ce sens-là. Et clairement, cette circulaire, leur fait une concession, ouvre des portes qui, moi, me font peur. Donc, je pense qu'il pose un débat intéressant et qu'on combat les discriminations à l'école ou je ne sais quoi, ça, c'est une forme de naïveté. On combattra les problèmes de harcèlement, etc., en mettant de l'ordre et de l'autorité à l'école.
Je suis assez d'accord avec ce que dit Alexandre Devecchio. Il y a un lobbying incroyable qui est quand même organisé et mis en place maintenant depuis une quinzaine d'années par les associations justement LGBT auprès de l'éducation nationale, auprès de la haute fonction publique de manière globale. Mais tout le monde toutes les administrations de l'État, la police nationale d'ailleurs, donc l'éducation nationale.
Oui, pour mieux former les policiers à accueillir les plaintes d'agression homophobe.
non, mais ça s'appelle pas du lobbying.
Mais ça, j'ai aucun problème avec ça, évidemment, Amine. Vous avez bien compris. Mais s'agissant de l'éducation nationale, ça, c'est quelque chose qui est méthodique, qui est quand même organisé, très structuré. Et on voit bien maintenant, moi, si vous voulez, j'ai des enfants qui sont assez jeunes et donc qui sont à l'école. Et quand on ouvre les manuels scolaires, il y a des choses, on est un peu interloqué. Si, et ça surprend. Et des questions que des enfants de 6 ans ne se posent absolument pas et qui sont des questions qui sont absolument pas évoquées dans les cours d'école. Et les parents sont obligés de pédaler dans la semoule pour essayer d'expliquer des sujets qui sont très complexes, qui relèvent de l'intimité. Et surtout, à 6 ans, on est beaucoup trop jeune. Enfin, c'est mon avis. À 6 ans, on est beaucoup trop jeune pour parler de ces questions-là. Peut-être qu'à 18, 19 ans, pourquoi pas. Mais alors, et donc, il y a quand même cet objectif méthodique. Et l'autre chose, ce qui est vrai, et Alexandre Devecchio a raison, moi, il y a 10 ans, quand on me parlait de la théorie du genre aux États-Unis, mais je me disais, mais c'est quoi ce truc complètement hallucinant? Eh bien, aujourd'hui, on organise des débats pour ou contre, et on accorde du crédit évidemment à ces thèses, aux gens qui défendent ces théories-là. Et donc, c'est pas du tout farfelu de se dire que ce qui est évoqué, ce qui est pointé du doigt comme un risque, ce qui est pointé du doigt aujourd'hui comme un risque, et tout le monde explose de rire.
C'est très important parce qu'on a eu de la. Sur la théorie du genre, rappelez-vous comment ça avait commencé avec Najat Vallaud-Belkacem. Il n'y a pas de théorie du genre à l'école. Vous propagez des fake news. Aujourd'hui, la preuve, il y en a une, c'est dans la circulaire.
Ok, Jeannette Beaugrave.
Non, mais moi, je ne suis pas pro-circulaire, mais il y a quand même. Quand j'ai été en fonction. Non, mais juste. Quand j'étais en fonction, j'étais modeste secrétaire d'État à la jeunesse. Avant dernier rang protocolaire, je n'avais rien d'exceptionnel. La seule chose, c'est qu'on avait fait un rapport avec Boris Cyrulnik. C'était sur un rapport sur quand les enfants se donnaient la mort, qui est publié chez Odile Jacob. Le vrai problème aujourd'hui, c'est que vous avez des enfants qui sont... je ne vous parle même pas de suicides d'adolescents qui sont des problèmes d'identité sexuelle, etc. On avait des cas de gosses qui ont 6, 7 ans, 8 ans, qui se donnent la mort. Que l'éducation nationale sache pas très bien faire des fois son travail, et c'était très difficile parce que quand on a travaillé avec Boris Cyrulnik sur cette question-là, on l'a fait sous le manteau pratiquement, et on a fait le rapport au dernier moment parce que non, parce
c'est très
que
important non, ce que vous dites, non, mais si, c'est un rapport,
c'est un rapport où il faut prendre en considération. Je suis d'accord avec vous, je suis contre cette théorie du genre. La seule chose, c'est que je suis pour qu'on prenne en compte des failles, des carences affectives chez des enfants. Alors, il faut les prendre en considération. L'école, le milieu associatif sont des lieux et souvent sont des détonateurs quand des enfants vont passer à l'âge. Donc, de prendre en considération que la circulaire soit à revoir, qu'elle soit sous l'influence.
Mais qu'il y ait des interventions à faire sur des gens qui sont dépressifs, enfants, qui aient des assistantes sociales. Le changement de prénom, vous croyez franchement que ça va empêcher un seul suicide ou que ça va participer de la confusion
des enfants? Ça s'impose à tous.
Non, mais attendez.
Ce que vous dites, c'est deux choses différentes.
Dans un cas,
vous évoquez un rapport, c'est intéressant.
Oui,
vous évoquez un rapport avec quelques cas et vous dites qu'il faut effectivement faire du cas par cas pour bien traiter ces cas-là. Et dans un autre cas, une circulaire, ça s'applique à tous. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est envoyé dans tous les établissements.
Vous avez le mot de la fin, rapidement.
Je pense que la question du mal-être des enfants à l'école est réelle et qu'aujourd'hui, dans un pays où on voit une augmentation des enfants qui ont entre 6 ou 8 ans qui se donnent la mort, interpelle. Voilà. Et qu'il faut faire quelque chose.
On remarque qu'Éric Zemmour veut forcer les Arabes à changer leurs prénoms pour avoir des prénoms dits français, et il veut empêcher des gens qui veulent changer de prénom parce qu'ils changent d'identité de pouvoir le faire. J'y vois une contradiction.
Quand on est un enfant, on ne change pas d'identité, Amine El-Khatmi. Je suis sûr qu'au fond de vous-même, vous pensez la même chose. Donc il faut être honnête, c'est de ça qu'on parle. Ce n'est pas des gens majeurs qui ont... Et de mettre des circulaires comme ça, ça n'aide pas les enfants, ça participe de leur confusion mentale.
Allez, on fait merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat dans Punchline. On aura l'occasion d'en parler de tous ces thèmes, j'imagine, dans les prochains jours sur Europe 1. Bonne soirée à vous. Tout de suite, c'est Mouloud Achour pour Verveine Underground. Bonne soirée sur Europe.